Bon midi la gang, précisément midi une de minute, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission En Jase, merci infiniment d'être à l'écoute. On se fait un plaisir de vous parler des grands sujets de l'actualité, locale, provinciale, internationale, fédérale. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'on a des bons dossiers concernant justement, c'est plus ça, le provincial. Hey, cette patente à gosse-là avec CGI, toi pourquoi pas? On va créer une nouvelle patente informatique pour essayer de corriger nos lacunes, mais on va faire un monopole. On va en parler avec Antonine Iaccarini. Mathias Turcotte va nous avoir un dossier également là-dessus. Au niveau local, Pascal Seyva va nous présenter un dossier sur le vol à l'étalage et les nouvelles techniques des voleurs. Oh.
Ben, c'est surtout que vous allez découvrir que le vol à l'étalage, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup plus organisé que ça, puis c'est beaucoup plus que local.
Ben, c'est ça. Donc, j'ai hâte d'entendre ceci. On va avoir également Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine, Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. On n'aura pas le choix de parler de l'Iran, des États-Unis. Une grande victoire selon Donald Trump. Je suis un peu moins sûr. Je pense que nos spécialistes aussi vont être un petit peu moins certains que ce que M. Trump a affirmé. Bref, c'est ce qu'on va retrouver à l'émission aujourd'hui. Comment allez-vous, mesdames?
Ça va très bien.
Très bien.
Good, 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 good. Très content de savoir ceci. Je vous le rappelle, pour nous écrire, 418-971-1021, c'est par texto. On adore vous lire, on adore réagir avec vous. 418-780-1021, si jamais vous prenez une envie folle de nous appeler. Également, blvd.fm, c'est la web radio. C'est également les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent à chaque jour. BLVD 102.1, c'est notre application. Téléchargez-la sur App Store, Google Play Store, c'est gratuit. twitch.tv/blvd/fm, vous allez voir nos belles faces en studio. Abonnez-vous à notre page YouTube, le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour. Et si vous avez un parleur intelligent, dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Très gros caucus, il y a plein de sujets de dernière minute qui viennent d'arriver. Mais avant ceci, Pascal, quelles sont les trois principales nouvelles à savoir dans l'actualité?
Ben en fait, je vais te parler de celles au moins qui sont arrivées dernièrement à nos oreilles. Celle de Mark Carney, qui est plus qu'à un siège de la majorité. Hein. Pierre Poilievre en a perdu une autre députée. Alors, c'est une saignée du Parti conservateur. C'est comme ça qu'on décrit dans le Journal de Québec. Et c'est une autre transfuge, la députée ontarienne Marilyn Gladue, qui poursuit sa route. Merci beaucoup à M. Poilievre, mais je passe à autre chose. Alors, c'est une conservatrice quand même de longue date. Et ça porte le nombre de libéraux à la Chambre des communes à 171. C'est pour ça qu'on dit qu'on est à un siège de la majorité pour M. Carney. Le ministre de l'Immigration au provincial, Jean-François Roberge, est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec, Ariane Mignolet. On lui reproche, entre autres, d'avoir partagé des analyses produites par son ministère avec des candidats dans la course à la chefferie de la CAQ, Bernard Drinville et Christine Fréchette. Des analyses qui concerneraient l'impact de leurs propositions respectives sur le programme de l'expérience québécoise, le PEC, là, et à une possible clause de droits acquis pour certains individus. Ça cause problème. Le gouvernement du Québec veut créer une société informatique en travaillant avec CGI. T'en parlais un peu en ouverture. On veut réduire la dépendance aux géants du web pour les prochains projets numériques. Mais selon ce qu'a appris le bureau parlementaire du Journal de Québec, ben, on parle que ce serait entre les mains d'un seul joueur. Donc, on apprend que le fondateur de CGI, Serge Godin, serait prêt à céder à Québec la propriété intellectuelle du code source de sa firme. En contrepartie, c'est lui qui veut la participation importante dans la nouvelle société d'État. Ça peut être un peu intriguant, puis on doit se pencher sur la question. Puis je vais terminer sur Donald Trump, qui lui revendique le cessez-le-feu comme étant une victoire pour les États-Unis. Du côté de l'Iran, on dit que c'est une victoire du côté de l'Iran. Alors, c'est un peu un bras de fer et mon père est plus fort que le tien au niveau de la guerre au Moyen-Orient. Et pendant ce temps-là, ben, on indique dans les dernières minutes que Donald Trump a dit que les frappes au Liban ne sont pas incluses dans le cessez-le-feu.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Antonin, je te fais une devinette. Je te fais écouter le 9 février dernier une députée du Parti conservateur du Canada qui clenche littéralement Mark Carney sur le fait que dans sa circonscription, on a énormément de pertes d'emplois. Et après, t'essaieras de deviner c'est qui.
The Honourable Member for Sarnia Lambton Bequagina.
Madam Speaker, Canada has lost over 5,000 automotive jobs. 32 paper mills have shut down, and in my riding, 3 facilities are shutting down. 51,000 manufacturing jobs have been lost in the year since the Prime Minister took charge. He said he was going to build, baby, build, but the only thing he's built is the highest unemployment rate for youth we've seen in a generation. So will the Prime Minister do what he promised, build at a scale we haven't seen in generations, and work with Conservatives to restore Canada's sovereignty in the face of American threats?
Hey, c'est vraiment sévère à l'endroit de Mark Carney. Tu nous fais perdre plein d'emplois. T'es le premier ministre de la perte d'emplois. Dans mon comté, ça va pas du tout. Il y a 3 entreprises qui ont fermé. Attends une minute, je vais regarder son nom. Ah, Marilyn Gladue. Je regarde à la télévision présentement. Carney rencontre la députée Gladue. Hein? Elle rentre chez les libéraux.
Ben, ça me semble logique, Jeff. C'est quoi le problème?
Je sais pas. On est-tu à lutte? Tu sais, à lutte, il y a un clan des méchants, un clan des bons. Puis là, des fois, ils interchangent. Tu sais, là, il y a des méchants qui deviennent bons. Puis, tu sais,
oui.
On est là, là.
On est là-dedans. Mais, tu sais, je l'écoutais, là. Puis, les périodes de questions à Ottawa, là, ils rajoutent un 25 % là, de dramaturge.
Oui, oui. Puis là, il y a toujours des ovations.
Il y a des ovations. Puis là, c'est le pire. Puis c'est l'enfer. Puis c'est les hyperboles. Tu sais, c'est sûr que quand tu y vas fort de même, puis qu'après ça, tu changes d'idée, c'est pire que si tu avais dosé un petit peu tes interventions.
C'est ça.
Deuxièmement, tu sais, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pensait ou est-ce qu'on leur distribue des questions? Parce que souvent, il y a des festivals de questions. Là. Toutes les députées se lèvent, puis tout à coup, aujourd'hui, on parle logement. Demain, on parle de coût de la vie.
Ouais, puis ça avait l'air de ça parce que la Chambre des communes n'est pas pleine, là, à grandeur, là.
Fait que, bref, du grand théâtre et finalement, ben, une contorsion d'une souplesse, ma foi, impressionnante de genre le Cirque du Soleil et on se retrouve chez les libéraux de Mark Carney.
Ben oui, ben comme ça, 2 mois plus tard.
Logique.
Regarde, là, je la regarde à la télévision, comment elle a l'air heureuse, elle parle à côté de Mark.
Elle a mis son chandail rouge.
Ah oui, elle a mis son chandail rouge libéral, c'était cœur, hein?
Il y a des gens qui disaient que le budget libéral était très conservateur en soi. Ça se peut-tu qu'il y ait tellement des rapprochements entre les deux visions actuellement, que ça se peut, des transfuges, puis c'est pas si fou?
Bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même époque que Justin Trudeau qui avait une alliance avec le NPD, mais quand même, je veux dire, il y a des différences majeures. Puis le gouvernement se fait critiquer par les conservateurs à tous les jours, fait qu'il en trouve des différences. Donc, Marilyn Gladue, pardon, elle est députée de Sarnia-Lambton depuis 2015, donc c'est pas non plus une nouvelle arrivée. Non. Elle a décidé de se présenter pour les conservateurs dans la dernière élection il y a un an. Donc, elle croyait encore que c'était cette bannière-là. Puis, elle s'est présentée contre les libéraux
de Mark Carney. En 2020, elle avait réfléchi à être la chef du Parti conservateur du Canada.
Absolument. Moi, du côté de... Bon, elle, c'est telle que telle. Les transfuges, il y en a eu plusieurs. Là. Elle passe après Chris D'Entremont, Michael Ma, Matt Genereux et Laurie Idlout. Et ça rapproche évidemment M. Carney de sa majorité. Ça en prend 172, il est rendu à 171.
Ça va être fait lundi. Il y a les deux comtés, l'ancien comté de Chrystia Freeland et de Bill Blair. Qui vont demeurer libéral.
Ce serait étonnant que ça change de couleur.
Dans Canada 338, sont tout près de 70 % les deux. Il y a cette bataille-là à finir à Terrebonne.
Bon, là, c'est de ça que je voulais te parler. Parce que je regardais l'annonce de la transfuge aujourd'hui, puis je me disais... Pourquoi maintenant? Okay? Parce que tu essaies de mobiliser tes troupes, tu as des bénévoles sur le terrain. Je regarde la candidate libérale, Mme Auguste, dans Terrebonne, elle se donne sur un moyen temps.
Ah,
tout le monde est allé l'aider. Elle a été hyper active. Ça a été un peu long avant que la candidate bloquée se confirme. Mais il me semble que tu veux garder tes troupes galvanisées, parce que l'enjeu dans Terrebonne est quand même un peu plus serré là, que dans les deux circonscriptions.
C'est nez à nez sur Canada 338. Là.
Donc, me semble, tu la gardes dans ta petite poche, là, Marilyn. Tu dis, on va aller gagner Terrebonne, on va dire aux gens de Terrebonne, on a besoin, là, parce que pour les méchants conservateurs, il faut qu'ils arrêtent de gouverner le pays avec nous. Puis tu sais, je sais pas, là, tu spins ça. Mais là, tu l'annonces tout de suite. Bon, ce que je me suis dit aussi, c'est que, d'après moi, quand tu as un hockey, tu veux pas qu'il y ait des disons, des doutes s'installent et que finalement la députée recule. Donc, dès qu'ils disent oui, d'après moi, là, c'est « Ah ouais, on sort le communiqué de presse. »
C'est ça.
Tu peux plus reculer, ma belle.
Mets ton gilet rouge, là, puis c'est parti. Là.
C'est ça.
Penses-tu qu'ils ont déjà acheté le chandail? T'es comme au hockey, au repêchage. Là.
Oui, exact.
Ils ont le chandail, puis ils ont le nom marqué dans le dos. Là.
Ouais.
Penses-tu qu'ils avaient déjà préparé le chandail rouge?
Ben, ça serait le fun, en plus, de trouver cette boîte-là avec les autres chandails pour les prochains.
Ouais, c'est vrai, on pourrait le savoir.
Mais honnêtement, une fois que M. Carney va avoir sa majorité, ton intérêt de changer de camp va être bien moins élevé. Parce que d'après moi, ils leur promettent des affaires en échange. Là.
Ben, c'est clair. Là. Puis ça, on va être assez renard pour regarder ce qui va se passer avec ces députés-là.
Oui, parce que les précédents, mettons, on prend Michael Ma, là, quand il y a eu la mission en Chine, Michael Ma, il était assis à côté du premier ministre. Ils l'ont amené. Il y a
exactement.
Toujours des petits nananes qui viennent avec ça.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Un petit nanan pour la communauté Inuit. C'est-tu comme ça qu'on le prononce?
Inuit,
oui, pour ce qui est là, de la transfuge GNP2, c'est clair.
Bien, en tout cas, quelques jours plus tard, il y avait... en fait, quelques jours plus tôt de son annonce, il y avait des montants d'argent qui avaient été annoncés
T'as
pour
raison.
Le Nunavut et le nord du Canada. Mais là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour M. Carney? Lundi, c'est les partiels, on va surveiller ça, évidemment. Il devrait être capable d'aller chercher sa majorité. D'avoir un petit peu plus que la majorité, c'est plus commode aussi. Parce
ben oui.
que juste par un... tu sais, je veux juste vous dire, les députés sont pas tout le temps présents en chambre pour les votes. Là. C'est pas pour rien qu'il y a un whip dans une équipe. Pourquoi ça s'appelle un whip? Parce que ça veut dire le mot fouet. C'est pour fouetter les troupes, pour s'assurer que les gens soient présents lors des votes. Parce que perdre un vote pour une niaiserie, parce qu'il y a un malentendu, qu'il y a un député qui n'est pas là aujourd'hui. Là.
Qui était parti
on a
à
déjà
pêche.
Vu ça. Hein? On c'est a ça. Déjà vu ça.
T'es parti à la pêche ou à un voyage à Paris?
Ça arrive.
Je donne un exemple comme ça.
Ça se peut.
Qui m'est passé par la tête. Bon! Assez parlé de Mme Gladue qui nous a menti le 9 février dernier à la Chambre des communes. Maintenant, hier, on a interviewé Bernard Drainville.
Oui!
Candidat à la chefferie de la CAQ. Et là, je vous fais entendre deux extraits de l'entrevue qu'on a eue. La première, où Bernard Drainville, je le questionne sur sa prise de bec avec Christine Fréchette à la fin du deuxième débat, il est hué. Puis le deuxième extrait, c'est toi, Antonine, quand tu dis « Ouais, mais là, il va falloir travailler en équipe » et tu lui mets de la pression. On écoute les deux, puis après, tu vas me parler de la prorogation de l'Assemblée nationale. Est-ce que Bernard Landry, quel lapsus...
Ça arrive souvent sans passer.
Ouais. Bernard Drainville nous a menti hier. Premier extrait. Vous avez été hué par des militants de la CAQ. Êtes-vous en train de séparer votre parti politique en deux complètement?
Ben non.
Là, les hués, M. Drainville, non, les gens n'ont pas aimé vos attaques envers Christine Fréchette.
Ah, c'est une dilemme. Ben, des attaques, non. Soyons, comment dire? Faisons la part des choses. C'est un débat d'idées. Alors, à un moment donné, débattre, ça veut dire exprimer des désaccords. Et puis là, moi, ce que j'ai dit sur le chemin Roxham, ce que j'ai dit, c'est tout à fait factuel, soit dit en passant, c'est tout à fait factuel. Là. Je veux dire, tout le monde qui vérifie les faits sait que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors que ses partisans n'aient pas aimé, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est un petit accrochage parmi tant d'autres, mais c'est certain qu'à la... Une fois que la course va être finie, il va falloir travailler ensemble.
Bon. Ça... Et puis là, c'est là que tu embarques en tout. Tu dis « OK, travailler ensemble, on va faire ça comment, travailler ensemble? » Voici sa réponse.
Qu'est-ce que Bernard Drainville, premier ministre, chef de la CAQ, fait pour s'assurer de refaire l'unité au sein des rangs caquistes?
Bien, d'abord, j'ai déjà annoncé que Christine serait ma vice-première ministre. Puis ça, je l'ai annoncé dès le premier débat, Antonine.
Elle ne vous a pas rendu la pareille, d'ailleurs.
C'est vous qui le dites, puis vous avez raison, c'est tout à fait factuel.
Veut-elle?
Alors j'ai tendu la main, et puis évidemment, ben je souhaite qu'elle fasse de même de son côté.
D'après moi, elle a déjà promis ça à quelqu'un d'autre. Moi, c'est mon hypothèse.
Puis est-ce qu'elle veut... Je ne vais pas commenter votre hypothèse.
Est-ce qu'elle veut être à votre vice-première ministre?
Est-ce qu'elle veut l'être?
Oui.
Ben, j'espère qu'elle souhaitera l'aide, parce que si on travaille pas ensemble, je vois pas comment on va pouvoir relever le parti.
Oh, si on travaille pas ensemble, je vois pas comment on va pouvoir relever le parti. Bon, Anto, c'est toi qui m'expliquais ça tantôt, hors d'onde. Je veux que tu l'expliques à nos auditeurs, parce que là, il y a une première opportunité de travailler ensemble pour Bernard Drainville et Christine Fréchette. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait patate.
Bon. Là, d'abord, une prorogation. On vous dit que la Chambre va être prorogée. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? C'est qu'on met fin à la session parlementaire, on ferme l'Assemblée nationale. Okay? Donc là, il n'y a pas de commission parlementaire, il n'y a pas de période de questions, les projets de loi tombent à l'eau. Donc, on retombe à zéro, il faut les redéposer. Dans le fond, après ça, c'est la prérogative du premier ministre de reconvoquer l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cet après-midi, pendant le Conseil des ministres, c'est là qu'ils vont voter, à moins là, qu'il y ait un imprévu cet après-midi, pour proroger. Parce que cette semaine, l'Assemblée nationale est sur pause. C'est le congé de Pâques qui se poursuit un petit peu plus longtemps pour l'Assemblée nationale. Les députés sont dans leur circonscription. Et normalement, mardi, on reprenait les travaux. Et même des fois, le lundi, il peut y avoir des travaux qui se voient un peu moins des travaux parlementaires en commission. Donc, étant donné que dimanche, c'est la conclusion de la course à la chefferie, on va connaître le nom du nouveau premier ministre ou de la nouvelle première ministre, bien, c'est aujourd'hui, pendant le Conseil des ministres, à tous les mercredis, qu'on décide de tout de suite la fermer pour ne pas avoir à faire un Conseil des ministres spécial, par exemple,
c'est
lundi,
ça.
Parce que là,
on s'entend, le nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre, ben va avoir à remanier son Conseil des ministres. Bernard Drinville nous l'a dit hier, moi, ça va être juste 20. Puis là, ben on va redonner des ministères à d'autres mondes.
On va choisir un leader parlementaire.
Exactement.
On va choisir un whip. Donc, on peut pas faire ça en 24 heures
c'est
après.
C'est ça. Ça va prendre à peu près une semaine, normalement. Fait que là, moi, je suis pour mon dire. Hey, écoute, dans le fond, l'Assemblée nationale va rouvrir mardi prochain, pas mardi qui s'en vient, l'autre pour la période des questions. Mais là, tu me disais, attends, mais là, c'est pas si simple que ça. Là. Qu'est-ce qui est pas simple comme ça?
Bien, dans le fond, c'est que dans la décision qu'ils vont prendre aujourd'hui, ils auraient pu dire, bien, on la ferme pour une semaine, on la ferme pour deux semaines, on la ferme pour trois semaines.
Mais pourquoi ils l'ont pas dit?
Parce que les candidats ne seraient pas d'accord sur la durée.
OK, attends. Les candidats, là, tu parles de Bernard Drinville et Christine Fréchette?
Oui, c'est ce qu'on dit.
Ceux qui vont devoir travailler ensemble pour l'amour de la CAQ.
Mais en même temps, là, tu sais, toi, tu disais, ça prend une semaine. Mais je me suis dit, tu sais, parce que dès que le nouveau premier ministre va être en poste puis que la Chambre va fonctionner, bien là, il faut aller à la période de questions. Puis là, tu te fais ramasser par les oppositions, tu te fais questionner. Il faut que tu connaisses tous les sujets.
Oui, c'est vrai que ça prend un peu plus qu'une semaine.
Bien, ça démontre peut-être, puis je sais pas qui voulait plus long ou moins long, OK?
Mm-hmm.
Mais il y a quelqu'un entre les deux qui pense que ça va lui prendre plus de temps que l'autre à être prêt.
Fait que là, t'es-tu en train de me dire que peut-être que, depuis le début de la course, on dit Bernard Drinville, c'est un fonceur, il défonce tout ce qui bouge. Fait que lui, il serait prêt en une semaine et demie. Mais Christine Fréchette aimerait mieux prendre un pas de recul?
J'ai aucune idée, honnêtement. Puis je peux aller plus loin dans mon enquête.
J'y vais dans mon hypothèse.
Cela dit, ça veut dire que ça va être pour une période indéterminée et qu'une fois le premier ministre choisi, ça va être à lui ou à elle de nous dire quand rouvrira l'Assemblée nationale. Puis ça nous rappelle aussi à quel point c'est pas très productif, ce printemps.
Ben
c'est
non.
Plus productif que... Tu sais, je regarde au fédéral, là, quand il y a eu la crise
ben
avec
Justin
Trudeau.
Justin a tout fermé. Là.
Il a tout fermé, ça a été long. Après ça,
le budget est allé à l'automne. Qu'est-ce que c'est?
Mais ça, c'est très fédéral. Là. C'est toujours un peu plus long, un peu moins rapide. Mais quand même, ça va être disruptif dans la session. Puis après, quand on va voir le nouveau Conseil des ministres, hey, là, ça va alimenter. On va en parler là, en titi là, dans les semaines suivantes là, parce que il va y avoir des gens qui vont être frus de ne pas avoir été nommés. Là, on va surveiller, par exemple, parce que Simon-Jolin Barrette demeure leader parlementaire. Qui est vice-premier ministre?
Mm-hmm.
Bon, si c'est Bernard qui gagne, on le sait. C'est
Christine.
Qui?
Vas-tu accepter?
Vas-tu accepter? On
la
le sait pas.
La question de Pascal était très légitime à
après
cet effet-là.
Si c'est Mme Fréchette qui va être son vice-premier ministre, moi, les paris sont ouverts. Moi, je vote pour Yann Lafrenière.
Moi, je me suis demandé si l'appui qui est fort de Simon-Jolin Barrette, ça n'a pas été dans les discussions, à savoir si Mme Fréchette refuse ce poste-là, est-ce que c'est Simon-Jolin Barrette qui se l'est fait promettre?
Je ne suis pas sûre que je comprends. Quel poste?
De vice-première ministre, mais dans ce cas-ci de...
Ah, d'être le vice-premier ministre de Bernard Drinville.
Moi, je pense qu'il va choisir une femme.
Moi, je pense que Simon-Jolin Barrette veut rester leader jusqu'à la fin et ministre de la Justice, c'est mon hypothèse. Mais cela dit, il va y avoir énormément de rebondissements. C'est pas la course finie dimanche, là, mais après ça, c'est la course, au nouveau Conseil des ministres. Et après, il va y avoir un nouveau discours d'ouverture, donc comme le discours inaugural, le discours du trône à Ottawa. Nous, on appelle ça un discours d'ouverture à Québec parce qu'on parle pas trop de la monarchie, on parle pas ça. Dans ce discours-là, ça va être les priorités du nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre. Mais on s'entend, ça va être un discours électoral.
Bien sûr!
Donc, on va voir les priorités. Ah, moi, je veux aussi savoir, parce que vous vous rappelez qu'Éric Girard a gardé un montant d'argent pour le candidat qui allait gagner.
Oui.
Bien, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être fait avec ce montant-là, parce que c'est pas assez pour faire toutes les promesses que les candidats ont dit pendant la course à la chefferie. Puis cette semaine, Christine Fréchette a promis de détaxer des choses. Hein? Donc, est-ce que c'est cette promesse-là, la dernière minute, qui va être l'objet là, des dépenses supplémentaires qui avaient été réservées dans le coussin de sécurité qu'Éric Girard leur a réservé?
J'ai vu tout à l'heure à l'émission de Mario Dumont sur LCN, déjà 38,5% des membres ont voté.
Oui, quand même, hein?
C'est
donc,
énorme.
C'est beaucoup, là. Fait que pour
là,
l'instant...
T'as bien beau te débattre comme un diable dans l'eau bénite présentement, il t'en reste juste 60% à essayer de faire changer de bord.
Oui, puis encore une fois, c'est très difficile pour nous de vous faire des prédictions. Parce bon, on a eu certains indices, il y a eu des sondages légers pendant la course, mais les sondages, c'est pas auprès des membres, c'est auprès des sympathisants de la CAQ, qui ne sont pas nécessairement tous des membres comme tels. Et là, cette semaine, l'équipe de Drainville là, nous spin, que c'est super serré puis qui peut causer la surprise. Et on a honnêtement aucune manière de le vérifier.
Exactement.
Donc, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Tu sais, les indicateurs qu'on a vus, ben on fait des... par déduction, on essaye de voir, tu sais, puis on se dit, c'est quand même plus probable que Mme Fréchette l'emporte. Mais honnêtement... Moi, je serais pas prête à gager ma maison, là.
Seule façon de le savoir, Antonine Iacarini, c'est l'heure de dévoiler notre émission spéciale de dimanche à partir de 15h sur les ondes de Boulevard 101. Parce que moi et toi, on sera en ondes. Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain, sera à Drummondville, dans le beat du Congrès. Il va aller nous chercher des entrevues exclusives. Donc, à partir de 15h, jusque vers un 17h30, 18h, le temps qu'on termine nos entrevues, on sera en ondes, en direct, sur le boulevard 102.1 pour vous présenter qui sera le nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre.
Oui, c'est pas rien. Parce les membres choisissent le nouveau chef de la CAQ, mais c'est quand même historique. Ça devient automatiquement le premier ministre du Québec, même si c'est pour quelques mois. D'ailleurs, je précise au passage que M. Drainville, cette semaine, dans ses messages hier, il nous en a parlé aussi, il a parlé de reconstruction du parti.
Mm-hmm.
Donc, c'est rare en politique. Les gens, ils font toujours semblant qu'ils vont gagner, là, même si...
Lui, il sait qu'il ne gagnera pas la prochaine.
Bien, j'ai trouvé qu'il y avait une belle lucidité.
Très, très, très belle lucidité. Alors, manquez pas ça, 15h sur les ondes de Boulevard 101, Jeff Fortin avec Antonine Iacarini, Mathias Turcotte sur le terrain. On a déjà des confirmations. Charles Milliard, Sol Zanetti, Éric Duhaime vont commenter immédiatement après le vote le nouveau, la nouvelle première ministre. Également, on va avoir Étienne-Alexandre Beauregard, l'ancien rédacteur de discours de François Legault avec nous. Alicia Despins qui va nous parler des enjeux de la capitale nationale et des régions parce qu'elle habite à Val-d'Or maintenant.
On me dit, j'ai un texto qui vient de rentrer, on me dit que la prorogation serait au moins jusqu'au 5 mai.
OK. Donc, ça va laisser un bon mois. De mois. Parce qu'on va être rendu déjà le 14
avril. Ouais, trois semaines quand même.
Ouais, un trois semaines.
Ouais.
C'est quand même important.
Oh, oui, c'est pas
je me serais attendu à quelque chose de
plus rapide. Tantôt, t'étais comme une semaine. Là. Ah ouais, là, la gang.
Là. Mais on produit. Là. On produit pas.
On produit pas.
Ouais, c'est vrai. T'as entièrement raison. Hey, on parle des politiciens en mal, de malhonnêteté, puis là, que c'est trop long, trois semaines, etc. Mais on peut pas reprocher à Jean-François Roberge de dire la vérité.
Ah oui.
Même si ça peut lui faire mal. On l'écoute le 30 mars dernier sur nos ondes.
Je veux préciser que depuis quoi maintenant 5-6 semaines, là, j'ai demandé à mon ministère de faire des scénarios de transition un peu plus doux entre l'ancien programme et le nouveau, là, entre le PEC et le PSTQ. On a fait évaluer la proposition de M. Drainville. Il y a raison de dire que ça voudrait dire à peu près 18 000 personnes. La proposition de Mme Fréchette, c'est à peu près 45 000 personnes. Donc, dans les deux cas, il y a moyen de faire une transition, de respecter nos seuils annuels.
Bon, plainte au commissaire à l'éthique hier du PLQ et de Québec solidaire en disant « Jean-François Robert, j'ai fait travailler des employés du ministère pour les besoins et les bénéfices de la CAQ ». Je sais pas s'il va pouvoir s'en sortir avec cet extrait-là.
Écoute. Mais non, mais là, je veux dire, il faut qu'il plaide coupable.
Là. Non, il
c'est un procès, là.
Tu veux-tu le réécouter pour être sûr?
T'sais, à part de dire, c'est pas moi, c'est un deepfake. T'sais. Il l'avoue,
non,
ça a été fait.
Non, c'était vraiment Jean-François Robert. J'en entrevais avec nous. On n'a pas fait ça avec l'intelligence artificielle. C'est tiré de l'entrevue du 30 mars dernier qu'il avait fait avec nous.
Ce qui pose des questions, c'est l'utilisation de ressources publiques.
Ouais.
Pour une activité partisane, parce qu'une course à la chefferie, ben, tu es supposé d'utiliser les budgets en dehors de ceux de l'Assemblée nationale ou des ministères. Par contre, dans la vraie vie, je veux juste vous dire, là, vous êtes ministre de quoi que ce soit, là, vous avez le droit de demander des notes à vos fonctionnaires sur n'importe quoi.
Ben oui.
Tu fais des scénarios, tu dis, bon, ben on va faire des mesures de transition. Tu dis, pouvez-vous me sortir un scénario où est-ce qu'on en prend 10 000, un pour 20 000? Non, pour... Mais... C'est juste que là, tout s'est fait au grand jour, évidemment, donc c'est très transparent. Et ça démontre encore une fois à quel point c'est bizarre de faire une course à la chefferie en étant au gouvernement.
Exactement.
C'est juste bizarre.
Mais c'est moi qui prend tout ça trop à la légère, où là, c'est chicagéné, il ne boit rien. Là, je veux dire, Bernard Drainville, s'il est nommé premier ministre, la première chose qu'on va demander au ministre de l'Immigration, c'est « Hey, fais-moi un scénario », puis Christine Fréchette aussi.
Puis de toute
façon... On l'a juste fait une couple de semaines à l'avance.
Il y avait une vaste mobilisation pour mettre davantage de mesures de transition pour la fermeture du spectre. Ça aurait été fait de toute façon. Oui, on chic de la guenée. Cela dit, si j'étais à l'opposition, je n'aurais pas boudé mon plaisir de faire une petite plainte au commissaire à l'éthique. Franchement, là, c'est comme la case gratuite du bingo.
Clairement,
là.
Clairement. On termine, Antonine, avec François Legault et Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité informatique, le remplaçant d'Éric Kerr. Là, eux autres, ils veulent nous créer une patente informatique avec CGI, 49% des ports, 51% au gouvernement, une espèce de monopole de l'informatique comme on a en électricité et en alcool.
Un nouveau panier bleu? Moi, c'est ça qui m'est venu en tête. Non, mais honnêtement, premièrement, je dois vous dire, je vous avoue que j'en avais entendu parler il y a quelques mois.
Mais tu t'étais dit...
Et j'ai ignoré, là. Je me suis dit, ben non, voyons donc. On va pas créer une patente, une grosse patente informatique pour gérer l'informatique au gouvernement. Puis on nous dit l'objectif, c'est de réduire notre dépendance aux géants de l'informatique. Ça, pour moi, c'est un raccourci qu'on fait souvent. Si on a des problèmes et des fiascos informatiques, c'est la faute des méchantes entreprises.
Non, c'est pas ça.
Ben, je m'excuse, mais c'est souvent la faute du gouvernement et de son incompétence aussi.
Ça aurait pas été plus simple pour Gilles Bélanger et François Legault d'arriver hier et de dire « Voici le tableau des recommandations du juge Galland, puis voici comment on va arriver à les réaliser. » Parce que on a-tu fait ça pour rien, cette commission d'enquête-là?
Ben, t'as tellement raison de le dire. Il y a un rapport qui est sorti. Il y a eu une commission d'enquête qui a fait un travail...
C'est le 14 mars dernier, là, c'était hier.
Peut-on
là.
Commencer par mettre en place les recommandations avant de créer une nouvelle structure publique avec une entreprise triée sur le volet parce que ça y tente? En disant, c'est une grosse entreprise québécoise.
Oh, ouais.
Je veux bien... moi, je suis pour ça, l'achat local. Je suis pour ça,
moi,
là.
Aussi, 100%.
Mais des monopoles?
Mais non.
Ça a-tu déjà fait baisser des prix, ça, des monopoles?
Non, jamais.
En tout cas,
non, moi, je sais pas.
Donnez-moi des exemples, quelqu'un.
Ta bouteille de vin a diminué-tu?
Non.
Ton compte d'Hydro-Québec, il diminue-tu?
Pardon, Hydro-Québec, par contre, on est parmi ceux qui paient le moins au monde. Donc ça, je le prends pas comme exemple. Cela dit...
Tes billets de loto, l'Auto-Québec?
J'achète pas de loterie. J'ai pas de comparatif.
Là, ça me tentait juste d'exagérer.
J'ai quand même fait mon cours d'économie de secondaire 3, là. Puis il me semble qu'un monopole, ça faisait pas baisser les prix. Puis que la compétition, ça faisait baisser les prix. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu sais, ce raccourci-là de dire c'est toujours la faute des entreprises, faut mettre en place les recommandations du rapport Galland pour améliorer la compétence dans l'appareil gouvernemental. Et moi, je pense qu'on a besoin de l'apport du privé, mais pas une entreprise triée sur le volet. Et en passant, vous allez être la seule entreprise, là, on vous choisit, là, vous êtes les élus, mais en échange, ils nous donnent leur code source.
Oui. Puis ils nous promettent qu'il va y avoir 30 à 50 % de sous-traitance, mais ça va être eux autres qui vont décider c'est qui est sous-traitant.
Hey, là! Non, je m'excuse.
C'est un monopole sur j'ai accès au contrat du gouvernement et c'est un monopole sur j'ai accès avec qui je travaille. Fait que si dans la vraie vie, là, dans le privé, il y en a un qui est mon gros compétiteur, là, qu'est-ce que tu penses que CGI va faire pour les contrats du gouvernement? Ciao, bye, je ne te veux pas, il va y faire mal.
Bien, c'est sûr. Puis moi, ça fait des années que je radote. La même affaire, il faut mieux travailler avec le privé. On ne fera jamais une affaire 100% publique, OK? Ça n'arrivera pas. Il faut mieux travailler avec le privé. Puis, il y a quelque chose qui ressemble dans le rapport Galland, mais en fait, au lieu de se tourner vers une entreprise puis de créer une structure, un comité consultatif qui regarderait les appels d'offres, qui aiderait à préparer les projets pour être sûr que ce soit des succès, qu'on utilise la méthode agile dans la gestion de projets, qu'on fasse des plus petits projets, puis que les entreprises privées qui sont vraiment les expertes nous aident et donnent des conseils quand ils ne bident pas sur un contrat. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts.
Mm-hmm.
Tu sais, même si j'ai... Tu sais, je veux pas les accuser de choses qu'ils feront pas, mais juste l'apparence, là.
Ben oui.
Après ça, je veux dire, tu vas tout faire pour que ça t'avantage.
C'est clair.
On te donne toutes les clés de toutes les serrures du gouvernement. Voyons donc.
T'es une entreprise privée, je te donne toutes les clés du gouvernement. C'est sûr, t'en prends avantage.
T'sais, à moins que, je veux dire, eux, ils soient tellement vertueux et purs. Là, ils n'ont pas d'intérêt, eux autres. Là. C'est pas une entreprise qui veut faire du profit. Là. Il y en a
puis
pas
là,
de...
je suis pas du tout anti-privé dans ce que je vais dire, mais il n'y a pas une entreprise privée qui veut pas prendre avantage de la compétition.
Ben là,
c'est pour ça que tu es en affaires.
Mais c'est, je veux dire, c'est la nature de l'économie.
C'est ça.
C'est comme ça. Donc, je trouve vraiment que c'est une patente à gourse aujourd'hui.
Oui,
puis, la semaine passée, on rendait hommage à M. Legault. Ben, ce soir-là, c'est fini. Là.
C'est ça.
Ça suffit,
oui.
Là.
Puis on va proroger le gouvernement après-midi. Mmh. On avait-tu besoin le matin d'une patente à gosse?
Écoute, en conclusion, là, ça sera dans leur proposition électorale. J'espère qu'ils ne mettent pas trop de ressources là-dedans maintenant. Puis qu'ils proposeront en campagne. Si le nouveau chef de la CAQ décide que c'est une bonne idée,
c'est ça.
Ben, ils proposeront. Puis les Québécois jugeront, mais honnêtement, vite de même. Là. Non, merci.
C'est ça, exactement. Antonine, on rappelle en terminant que dimanche, à compter de 15h, on est en onde sur Boulevard 102.1, émission spéciale pour la nomination du nouveau premier ministre ou de la nouvelle première ministre. C'est évidemment la chefferie de la CAQ. Mathias Turcotte, que vous pouvez rejoindre à Citoyens commercial. blvd.fm pour des dossiers spéciaux, sera sur place. Il va justement dans le monde nous arracher une coupe de politiciens pour les amener en onde pour des entrevues exclusives à Boulevard. Et nous, on va analyser cette campagne-là. On va parler justement avec des gens qui sont intéressés et impliqués dans cette campagne-là, notamment Étienne-Alexandre Beauregard, l'ancien rédacteur de discours de François Legault. Et on aura les chefs de plusieurs partis politiques déjà confirmés. Charles Milliard, Sol Zanetti et également Éric Duhaime qui vont commenter la nomination. Le vote devrait, les résultats du vote devraient être connus aux alentours de 16h30. Ça va être bien le fun qu'on fasse ça ensemble, Anto.
On va le vivre.
Exactement.
Venez le vivre avec nous.
Ouais. Vous avez aimé le caucus? Bien, c'est disponible sur notre page YouTube. Abonnez-vous à Boulevard, la page YouTube. Et le caucus, c'est du lundi au jeudi, de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Dans un instant, justement, l'émission On en jase, on parle avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires. Les États-Unis ont décidé d'adopter un cessez-le-feu pour 2 semaines, mais il y a encore des bombardements au Liban de la part d'Israël. Qu'est-ce que ça pourrait créer, justement, au Moyen-Orient? On va en parler avec Éric Ouellet. Et cette patente à gosse-là, informatique, bien, Mathias Turcotte a parlé avec plusieurs spécialistes ce matin pour en savoir plus. Il nous amène un dossier à la suite de l'entrevue avec Éric Ouellet. Tout ça à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase, ton émission d'actualité du midi pour tout savoir sur Québec, tout savoir ce qui se passe en politique, surtout dans le caucus avec Antonine Iaccarini de midi à 12h30. Je vous rappelle pour interagir avec nous, 418-971-1001. Pour nous écouter, vous avez le choix entre le blvd.fm, c'est notre web radio, ou l'application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Avant de faire la météo et les bonnes nouvelles, Pascal, il y a de la circulation.
Oui, merci pour les informations. Accident sur du Vallon Sud à la hauteur de Hamel. Ce serait complètement congestionné, passé par le Lièvre. Il y a beaucoup d'informations qui sont entrées à ce niveau-là. La voiture qui aurait fait un tête-à-queue. Ce que je vois, parce que souvent quand il y a des accidents, on ferme les caméras là, au MTQ. Mais ce que je vois en termes d'infos qui a été donné, c'est aussi Robert Bourassa Sud, hauteur boulevard Wilfrid Hamel, la voie de gauche qui est bloquée, sans plus. Mais soyez prudents. Je pense que ça freine rapidement. C'est peut-être ça aussi qui est accidentogène en ce moment.
Merci beaucoup, Pascal. La météo, 4 degrés aujourd'hui, généralement ensoleillé. La belle journée, c'est demain, 11 degrés, alternance de soleil et nuages. Vendredi, c'est 8 degrés avec de la pluie. À plus long terme, 7 degrés pour samedi et 10 degrés ensoleillé pour dimanche. Donc, le printemps arrive enfin. Pascal, on suit quoi dans l'actualité avant de parler avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires?
Mark Carney, notre premier ministre canadien, qui serait plus qu'à un siège de la majorité, hein, c'est sûr, parce que quand on voit qu'il y a une transfuge, oui, littéralement, la députée ontarienne Marilyn Gladue, qui est une fervente conservatrice depuis des années, qui a décidé de quitter son siège conservateur pour se rendre dans ceux des libéraux, bien, ça expliquerait pourquoi on est à maintenant 161 place à la Chambre des communes, donc c'est-à-dire à un siège de la majorité pour Mark Carney. Dans une période assez importante au niveau politique, hein, je pense que ça fuse de toutes parts les choses à régler. Pour Mark Carney, ça donnerait un jalon de plus, mais quand même, c'est toujours à surveiller. La majorité, ça peut être une épine dans le pied aussi.
Oui, exactement. Puis on va surveiller ce qui va arriver au niveau du Parti conservateur. Jamais cette majorité il y a. Est-ce qu'il y aura plus de contestations envers Pierre Poilievre? Poilievre qui venait de faire une bonne semaine avec justement avoir participé au podcast de Joe Rogan. Ça s'était bien passé. et également son annonce sur la taxe à l'essence.
Ici, au provincial, le gouvernement du Québec veut créer une société informatique qui travaille avec CGI. On veut réduire, en fait, la dépendance aux géants du web pour ses prochains projets numériques. L'affaire, c'est que le bureau parlementaire du journal a appris que, oui, c'était un important projet, mais on pourrait concentrer une part importante aussi des contrats publics entre les mains d'un seul joueur. Et c'est là où ça cloche. On apprend que le fondateur CGI, Serge Godin, serait prêt à céder à Québec la propriété intellectuelle du code source de sa firme, sauf qu'il demande une participation importante dans la nouvelle société d'État en échange. Et c'est là où c'est problématique, où Québec serait actionnaire à 51 %, CGI pourrait détenir jusqu'à 49 %. Et ça, ben, ça ajoute au fait que le ministère du Numérique croit que la création de la nouvelle société permettrait au gouvernement du Québec d'économiser environ 10 milliards de dollars sur 10 ans, mais peut-être que c'est un peu trop donné à une entreprise, selon certains.
Exactement. Un autre sort qui nous écrit: dans l'état actuel du gouvernement du Québec, qui verra la majorité des sièges occupés par de nouveaux députés et nouvelles fonctions d'ici quelques mois, je trouve ridicule de perdre son temps à la création de nouveaux monstres. Je suis entièrement d'accord. Et Mathias Turcotte va venir nous dresser le portrait complet dans quelques minutes à l'émission d'En Jase.
Jean-François Robert, je fais jaser le ministre de l'Immigration provinciale. Ben, il est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec. C'est Ariane Mignolet. Donc, on reproche à Jean-François Roberge d'avoir partagé des analyses produites par son ministère avec les candidats dans la course à la chefferie de la CAQ, Bernard Drinville, Christine Fréchette. Et ces analyses-là concerneraient l'impact de leurs propositions respectives pour le programme de l'expérience québécoise, le PEC. On en a-tu assez parlé, en plus, dans les dernières semaines? Et à une possible clause de droits acquis pour certains individus. Ce serait en contradiction avec l'article 17 du Code. On prévoit notamment qu'une députée ou un député ne peut pas utiliser ou communiquer des renseignements qu'il obtient dans l'exercice de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser des intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
Pour ceux qui l'ont manqué durant le caucus avec Antonine Iaccarini, je vous fais écouter l'extrait de Jean-François Robert sur nos ondes le 30 mars dernier qui confirme qu'il a demandé à son ministère ces chiffres.
Je veux préciser que... depuis, quoi, maintenant, 5-6 semaines, là, j'ai demandé à mon ministère de faire des scénarios de transition un peu plus, disons, un peu plus doux entre l'ancien programme et le nouveau, là, entre le PEC et le PSTQ. On a fait évaluer la proposition de M. Drinville. Il y a raison de dire que ça voudrait dire à peu près 18 000 personnes. La proposition de Mme Fréchette, c'est à peu près 45 000 personnes. Donc, dans les deux cas, il y a moyen de faire une transition, de respecter nos seuils annuels.
Alors, M. Robert, je ne pourrais pas vraiment s'en dégager de cette plainte à la commissaire à l'éthique.
Ou on ne s'en dégagera pas aussi, c'est sûr. Les axes autoroutiers, ça va être compliqué cet été. Et bon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, on dirait le jour de la marmotte, mais c'est sérieux. Les automobilistes de la région de Québec vont devoir être patients encore une fois pendant tout l'été 2026. Beaucoup de chantiers majeurs du ministère des Transports, de la mobilité durable qui ont été ajoutés à ceux qui avaient été annoncé pour le tramway, donc sur le réseau plus municipal, là, ici. Là. Et on sort de l'information comme quoi la rive nord, la rive sud du fleuve, les secteurs des ponts de Québec, Pierre-Laporte, seront fortement impactés par une panoplie de chantiers. Ça, c'est sorti. On en parle partout, dans chacun des médias. Puis le Journal de Québec affirme qu'il y aura plus de détails à suivre. Ça veut dire qu'on n'a même pas été capable de livrer toute l'information en ce moment. Donc, ça risque d'être encore plus crucial, l'importance d'en jaser. Il y aura aussi d'importants travaux qui vont se tenir dès cet été, dès l'été 2020. Pour refaire une beauté à l'Assemblée nationale. Ça a été confirmé hier par le responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, à la CAQ. Si on revient un petit peu plus local, Bruno Marchand. Bruno Marchand qui est de retour à Québec après ses vacances. Et ça a fait couler de l'encre. Alors, on rencontrait hier des journalistes, mais on n'a pas invité tout le monde, il faut le dire. Les journalistes qui ont été rencontrés ont été capables de poser des questions, mais ça n'a pas été super positif. On sentait un Bruno Marchand fâché des réactions de l'amas d'information de Respect citoyen et de Stéphane Lachance. On a lancé une pointe aux journalistes qui ont rapporté la nouvelle de son absence. Et je vais le citer. Il y a quelqu'un qui a écrit un article là-dessus. Il y a quelqu'un qui a ouvert le bal. Ça me dérange pas. C'est un choix de journaliste, mais on sentait dans le ton que c'était dérangeant.
Oui, exactement. C'était une flèche envoyée directement à Taïeb Moala, qui est le journaliste Journal de Québec, qui avait sorti l'article. Moi, j'ai pour mon dire que si Bruno Marchand voulait pas que ça fasse toute une tollée comme ça, il y avait juste à être à l'avant-plan, à rencontrer les journalistes, à dire « Vous savez quoi? Je vais rater un conseil municipal. Je reçois un cadeau de fête. Je m'en vais à Paris. Je prends des vacances. » Puis voici les raisons pourquoi je le fais. Et comme ça, il aurait pu gérer la situation. Mais à la place, sur ses médias sociaux, on faisait comme à croire qu'il était là parce qu'il envoyait des messages à chaque jour. C'est ce qui a dérangé la communauté journalistique et Respect citoyen. Et c'est par manque de transparence que Bruno Marchand a payé justement cette problématique-là, cet enjeu-là.
Et c'est pas seulement l'opposition à l'Hôtel de Ville qui était dérangée par tout ça. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, a réagi. Grosse pointe journalistique que Bruno Marchand lui a lancée en disant « Monsieur Duhaime, qui protège les arbres, c'est aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus, ça ne se peut pas. » Parce qu'il y a plein de questions qui ont été posées, entre autres les vacances et tout ça, mais Éric Duhaime est très fâché de la coupe d'arbres. Ben, c'est aussi une opposition face au projet de tramway. Et c'était la réplique de Monsieur Marchand.
Oui, Monsieur Marchand ne veut pas qu'on le critique et qu'on fasse la démagogie, mais enfin envers Éric Duhaime. Ça sera mes seuls mots.
Je sais qu'on s'en va parler de l'international, fait que je vais me permettre la dernière nouvelle qui est un petit peu plus difficile, qui nous ramène à beaucoup de soins, à beaucoup d'importance du côté de la santé, là, de reprendre ça en main. Il y a une mort atroce d'une religieuse en RPA qui est rapportée. C'est des semaines avec une plaie de lit infectée, une plaie de 7 cm par 7 cm. C'est ça que rapporte le rapport du coroner sur son décès. Et je pense que tout le monde se sent concerné, peu importe où ça arrive. C'est une femme qui s'appelle Jacqueline Villemur qui est arrivée à l'urgence avec cette plaie-là, 3 cm de profondeur, possible infection profonde de l'os, et qui en souffrait. Puis, elle était laissée un peu à elle-même à 83 ans dans la RPA. Elle souffrait de démence. C'est comme si on n'avait pas donné les soins qu'elle devait avoir. Elle est décédée en 2025 des complications liées à cette plaie-là, là, une plaie qui l'a tuée, pensez-y. Et c'était du côté de la Chine, à la Villa Opale. C'est là où était logée la congrégation religieuse. Mais c'était comme d'une évidence qu'on dit là, que c'était à traiter. Et pourquoi on ne l'a pas vu? Pourquoi on ne l'a pas même, je m'excuse, je sais, c'est l'heure du dîner, senti?
Je comprends.
Toutes les lumières étaient allumées là, autour de cette blessure-là chez la dame. On a publié un rapport en mars. C'est Dr Mylène Servant qui se questionnait sur la rigueur dans les suivis, l'évaluation, la prise en charge des plaies de pression à la RPA du groupe Lokia, mais quand même, je pense qu'on peut étendre ça à tout le Québec. C'est souvent des histoires comme celle-ci qu'on rapporte.
Ah, en effet, puis j'espère justement que l'enquête va permettre de mettre le doigt sur des coupables et que ceux-ci ne seront plus aptes à pratiquer. Justement, on ne leur permettra pas de pratiquer des soins auprès des personnes aînées.
Si les coupables, c'est plutôt le réseau de la santé qui donne pas de temps à ces gens-là de gérer, puis de voir, puis d'être au courant, puis de pouvoir changer des bandages de plaies. Et si les coupables sont en hauteur, ça nous rapporte toujours au même problème.
Ben oui, le système. T'as raison, ce système-là qu'on ne change pas. On se transporte à l'international. On s'en va en Iran, au Liban, en Israël, bref, au Moyen-Orient, avec Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci beaucoup pour ton temps pour l'émission On en jase.
C'est toujours un plaisir de vous parler.
Éric, cessez-le-feu qui a été annoncé par les États-Unis. L'Iran également a dit qu'il y a un cessez-le-feu. Mais là, il y a des bombardements présentement au Liban de la part d'Israël. Est-ce que ce cessez-le-feu-là risque tout simplement d'être une situation encore plus explosive?
Oui, mais en fait, Israël avait annoncé que toutes les opérations au Liban étaient exclues du cessez-le-feu, alors que les Iraniens demandent que ce soit inclus. Donc là, on a déjà là une pierre d'achoppement assez problématique qui pourrait mettre fin au cessez-le-feu. Mais il y a quand même eu des attaques ce matin contre des positions américaines et leurs alliés dans le Golfe. Et il y a aussi l'ambassade américaine à Bagdad qui a été menacée. Donc, on a un cessez-le-feu qui est bien fragile.
Oui, c'est ça. Est-ce que les Américains, justement, qui ont gardé des troupes-là, vont répliquer rapidement, selon toi, ou ça a tellement mal été pour Donald Trump avec la hausse du coût du pétrole et les marchés boursiers qui ont crashé, qu'il va vraiment être patient?
Non, je pense que les Américains vont garder leur base et leur position dans la région. Ça, il n'y a aucun doute. Jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une entente complète là, sur la situation future. Mais on est bien loin de tout ça en ce moment. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un risque relativement élevé que les combats reprennent avant la fin des deux semaines.
On sent le bras de fer, on sent mon père est plus fort que le tien aussi dans la situation du cessez-le-feu. Il revendique autant l'Iran que les États-Unis d'avoir gagné les pourparlers. C'est une situation qui est problématique en elle-même aussi, non?
Ouais, ben ça, c'est du gonflage de torse là, de deux côtés, parce que, bien entendu, ils veulent sauver la face face à leur population respective. Mais si vous regardez les plans là, qui ont été proposés de l'Iran et des États-Unis, sont à plusieurs égards diamétralement opposés. Donc, par exemple, l'Iran dit qu'ils vont continuer l'enrichissement d'uranium, alors que les États-Unis disent que c'est qu'ils ont complètement arrêté. Donc, si la trêve continue, on va espérer que ça continue. Les négociations vont être très ardues parce que les positions sont très fermes de deux côtés, sont des positions maximalistes, donc on n'a pas fini d'en entendre parler.
On a dit que durant la trêve, le détroit d'Ormuz serait ouvert à nouveau, mais c'était une bonne question d'un auditeur ce matin. Est-ce qu'il est déminé? Est-ce qu'il est sécuritaire pour les pétroliers?
Pour l'instant, les mines sont pas un gros problème. C'est plus les drones, autant aériens que sous-marins, qui sont sous contrôle de l'Iran. Oui, le passage à ce niveau-là est sécuritaire, mais c'est la question, est-ce que les Iraniens vont recommencer à attaquer les pétroliers avec des drones? Ça, c'est moins clair. Pour l'instant, ils semblent avoir arrêté, quoique... Il y a des rapports qui disent que les autorités iraniennes auraient averti des navires de ne pas traverser le détroit d'Ormuz. Donc, on est encore dans une situation qui est relativement floue.
Monsieur Ouellet, je vous pose la question. Effectivement, si on décide de reprendre la dérive dans le détroit d'Ormuz avec des cargaisons autres que le pétrole et ou le pétrole, quel serait le pire scénario si jamais l'Iran dit « Ben non, nous, c'est une façon de faire la guerre, puis celle-là, on la détient et on l'utilise ».
Ben, écoutez, le pire scénario, c'est qu'il y aurait vraiment des attaques systématiques contre tous les navires dans la région, incluant non seulement ceux qui passent à travers le détroit d'Ormuz, mais ceux qui sont ancrés au large, en particulier des Émirats arabes unis, là, de Dubaï. Là, ça pourrait vraiment, je me permets l'expression, mettre le feu aux poudres encore plus. Et là, on pourrait voir les Américains passer à un autre niveau d'attaque. Leurs infrastructures de communication, de production d'électricité, etc. Donc, oui, il y a des risques d'escalade très forts. Mais pour l'instant, on va espérer que la trêve fonctionne.
Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Qui dit vrai? Est-ce que c'est Pete Hegseth, justement le secrétaire à la défense américaine, qui dit que les bases iraniennes sont complètement détruites et que l'Iran n'a plus de défense?
Je dirais que c'est un demi-mensonge, c'est-à-dire que oui, il y a de nombreuses bases militaires et des gardiens de la Révolution en Iran qui ont été détruites. Cependant, l'Iran possède encore des capacités mobiles de lanceurs de drones et de missiles qui, eux, sont faciles à cacher. Donc, les capacités iraniennes ne sont pas détruites, pas du tout. On parle d'environ la moitié de leur capacité qui a été détruite. Et donc, il reste l'autre moitié qui est encore disponible.
Peut-être en terminant, sur la question du cessez-le-feu, Israël est un joueur, oui, allié des États-Unis dans ce cas-ci, mais est un peu aussi indépendant dans ses choix. Puis on a vu Liban comme étant une cible, donc il ne fait pas partie du cessez-le-feu. Est-ce qu'Israël pourrait juste continuer ses attaques et se permettre, en fait, d'être en offensive versus les conversations entre l'Iran et les États-Unis?
Je pense pas qu'Israël va attaquer l'Iran pendant la trêve, à moins que les Américains mettent fin à la trêve. Ça, je pense que le signal ou les communications entre les deux sont très claires. Mais Israël se sent tout à fait à l'aise d'avoir la liberté de continuer les opérations au Liban. Ça pourrait devenir une pierre d'achoppement, mais du côté iranien. Je peux pas imaginer que les Israéliens vont attaquer l'Iran alors que la trêve continue. Ça me surprendrait beaucoup.
Éric Ouellet, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé à l'émission On en jase. Puis ce qu'on en retient, c'est que malgré le cessez-le-feu, la situation est encore très explosive au Moyen-Orient, donc il n'y a rien de rassurant là.
Tout à fait. Tout à fait.
Merci, Éric. Salut, bonne fin de journée. Éric Ouellette, qui est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire du Canada. C'est notre spécialiste en conflit militaire. Comme vous venez de l'entendre avec lui, c'est un cessez-le-feu, mais c'est très fragile, encore une fois, comme situation. Alors, on va continuer de suivre ça attentivement pour vous, chers auditeurs et auditrices de Boulevard 102.1. Circulation, Pascal?
Je parlais de Robert Bourassa-Sud à la hauteur Boulevard Wilfrid Hamel. Bien, la voie de gauche, la voie du centre aussi était bloquée. Il y avait un accident. Le remorquage était en cours. On a terminé, mais ça a énormément ralenti le secteur. Soyez prudents.
On en jase.
Le Journal de Québec traitait à la une ce matin. Souveraineté numérique pour ses coûteux contrats informatiques. Québec veut créer une nouvelle société avec CGI. Et là, on en a parlé tout à l'heure dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Il y a plein de gens qui se sont réveillés ce matin qui ont fait « Qu'est-ce que c'est ça? Ça va-tu être encore une patente à gosse inventée par le gouvernement? » Et là, on apprend que le gouvernement voudrait créer un monopole, une nouvelle société d'État, avec CGI et son fondateur Serge Godin. CGI a 49 % des parts, le gouvernement 51 % des parts. Pour savoir si tu es bon, si tu pas bon, parce que nous, on n'est pas des experts, Mathias Turcotte est allé questionner les experts sur le terrain. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Alors, Mathias, tu as parlé justement des gens parce que moi, personnellement, quand j'entends le mot monopole, je fais des boutons parce que je pense à ma bouteille de vin qui arrête pas d'augmenter à sac, puis mon compte d'électricité qui augmente année après année.
Oui, mais puis en même temps, tu as raison de faire des boutons sur certains points. Un monopole n'est pas nécessairement positif. Puis au Québec, on a comme tendance justement à regarder la SAQ ou Hydro-Québec puis se dire « Oh mon Dieu, c'est terrible un monopole. » Mais par exemple, si on prend Hydro-Québec, il y a quand même certains points positifs d'avoir un monopole comme Hydro-Québec. Mm-hmm. Le premier, avoir une stabilité au prix de l'électricité.
En effet.
Ce qu'on ne voit pas nécessairement partout à travers le monde parce que le marché électrique, c'est très volatile côté offre et demande. Donc, le prix varie beaucoup. Là, on a une stabilité de prix. Donc, un monopole n'est pas forcément négatif. Là, la question, c'est cette fameuse société informatique-là, qu'est-ce que ça va être? Pour l'instant, selon les informations qui sont rapportées par le bureau parlementaire de Québécois, justement, on parle d'une société qui serait créée dans le but de gérer des projets numériques des différents ministères, des différents organismes publics, qui serait dans l'objectif également d'avoir une souveraineté numérique de l'État, donc d'avoir le contrôle sur les données numériques ici au Québec directement. Ce serait une société qui serait en partie possédée par le gouvernement. On parle de 51 % des actions, ce qui nous donne quand même le processus décisionnaire. On est actionnaire
en
majoritaire,
effet.
On peut décider. Puis entre 30 et 49 % des actions qui seraient détenues par CGI, qui est une firme informatique justement. Puis ça, c'est quand même beaucoup, là, puis on va le voir. CGI, c'est la Caisse de dépôt, est l'un des actionnaires principaux de cette compagnie.
Donc, on va donner de l'argent contre-gouvernemental à CGI pour renflouer la Caisse de dépôt?
Si on suit une boucle, on peut dire que c'est un peu ça qui va se passer.
Donc, je vais sortir de l'argent dans ma poche de gauche de mes impôts. Pour
donner à la Caisse de dépôt.
Puis là, il va rentrer dans ma poche de droite pour mon fonds de pension. Ah non, j'ai pas de fonds de pension en travaillant.
Ah, oups. C'est plate, hein?
Là, dis-moi donc, apparemment qu'on a comparé ça à Post-Canada. Post-Canada,
ouais.
c'est pas une société
ouais,
qui va bien, là.
C'est ça.
J'ai peur, là.
Ben, c'est intéressant parce que la question est-ce que c'est la solution? On voit des scandales, les fiascos numériques se multiplier au Québec. Est-ce que c'est vraiment ça qui va arranger le problème? Donc, je me suis entretenu avec différentes personnes, à commencer par Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Puis lui, il a commencé... en fait, c'est une entrevue ce matin dans le Point de Max à 10h20 qu'il a donné à l'émission. Puis il a commencé par nous ramener dans le passé, parce que c'est pas la première fois qu'on voit un projet de ce type-là en sol canadien. Il nous a ramené en nous parlant du projet InnovaPost. En 2002, Post-Canada, avec CGI, qui avait justement fait un projet de ce type-là, puis ça n'avait pas super bien fonctionné, je vous laisse l'entendre.
Mais ça, ça a été le consortium que CGI et le Post-Canada ont formé. Post-Canada, propriétaire de cette petite entreprise à 51% et CGI à 49%. Et qui avait pour objectif pas mal que ce qu'on retrouve ce matin dans le journal. Donc, réduction significative des coûts TI, atteindre une économie de 24% sur la gestion des infrastructures dès 2004, générer des revenus auprès d'administrations postales étrangères, puis apporter des capacités de développement applicatif de calibre mondial. Et tout ça, ça s'est terminé en début d'année 2024, avec justement la vente de ce consortium-là qui a eu des pertes de milliards de dollars.
OK. Fait que bref, il y a quelque chose qui n'a pas marché en 2002. Puis là, moi, en tant que bon gouvernement, je me dis, hein, je vais reproduire cette recette-là en 2026. C'est-tu là-dedans qu'on est, là?
Bien, pour Steve Waterhouse, du moins, pour l'instant, on a peu de détails sur le projet, il faut le préciser. Mais au lorsqu'on le regarde, avec le peu de détails qu'on a, c'est un peu ça qu'on peut déduire, qu'il n'y a rien qui nous permette de se dire que ça va être un succès.
Ben, disons que ça nous encourage pas à croire que ça va être une amélioration. Parce que dans ce cas ici, le contexte proposé du gouvernement du Québec avec CGI, ben, ça devient un fournisseur privilégié, puis il va devenir à ce moment-là captif de qu'est-ce que CGI propose comme solution. Moi, à date, c'est le même que je l'entrevois. Et si c'est ça, ben, c'est pour ça que je référais tout à l'heure à l'initiative d'InnovaPost, que là, eux autres, pendant toutes ces années-là, depuis 2002 jusqu'à 2024, ben, ils ont été captifs de comment ça se passait de CGI, comment ils lui proposaient la solution, comment est-ce qu'ils entretenu ça toutes ces années. Fait que comment est-ce que ça serait différent?
OK, mais attention, moi, je suis un gars positif. Là, j'entends Steve Waterhouse.
Ça part pas
je
bien.
Je me dis, hey, cette idée-là aux poubelles, puis pogner ça direct à l'incinérateur pour que ça brûle, puis qu'on y pense plus. Y a-tu quelqu'un à qui t'as parlé qui s'est dit, ouais, ça pourrait peut-être marcher?
Ben, tu vois, c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs perspectives dans la vie. Puis je me suis entretenu avec Gilles Levasseur, qui est professeur en gestion et droit, puis notamment spécialiste en contrat public à l'Université d'Ottawa. Puis lui m'a quand même ciblé quelques points positifs qu'on pourrait tirer d'une société de ce type-là.
Ben, la beauté de faire cela, c'est qu'on va centraliser des expertises en informatique, puis on va être capable de limiter les erreurs qu'on a connues avec Saclay et Québec Santé, parce que ce qui arrive, c'est qu'actuellement, c'est le fait qu'on a des gens qui sont compétents, mais sont éparpillés. Alors là, on va les concentrer. Mais la deuxième des choses, c'est qu'on va établir des normes de base pour faire fonctionner ces projets-là, ces entreprises-là. Donc, c'est la deuxième des choses. Puis la troisième des choses qu'il ne faut pas oublier, d'accord, c'est qu'à un moment donné, là, il faut garder toujours ces gens-là à l'affût des nouveaux outils.
OK. J'aime son angle, j'aime son positivisme. Maintenant, j'ai une question, moi, qui me trotte dans la tête depuis le début. C'est que je me dis, on va faire comment pour les contrats? Parce que je le disais, Antonine, tantôt, CGI pourrait anéantir complètement sa compétition avec ça.
Oui.
Puis après ça, même être le seul à pouvoir réaliser les contrats de cette société-là.
Oui, oui. Puis ça, ce serait un problème majeur.
Ben,
là,
on s'entend que
on va
c'est
se
ça,
dire.
Ça,
c'est vraiment le cas de scénario dramatique.
Je le mets
dramatique.
Au pire, mais c'est parce que je pense que dans des grands projets comme ça, il faut toujours penser au scénario du pire.
Oui, puis je veux dire, ce que M. Levasseur ciblait, ça peut être intéressant. On peut se rappeler, c'est à clic. On passait au ministère de la Santé qui disait « j'ai pas agi parce que cybersécurité ». Côté du ministère de la cybersécurité, on disait « j'ai pas agi parce que c'est au santé ». Fait que là, d'avoir un point de centralisation, mais il faut que ce soit bien fait. Puis c'est ce que Gilles Levasseur dit présentement. Va falloir mettre des clauses très claires et des sécurités parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'on sait qu'un projet informatique va planter, entre guillemets. On sait que qu'à un moment, ça va casser parce que la technologie évolue rapidement.
En effet.
Mais il faut prévoir le moment où ça va casser puis se donner les outils nécessaires pour agir.
Puis on sait que ça va casser à un moment donné, pas parce que c'est pas des bonnes choses, c'est le changement dans la société technologique. Donc, il faut être capable d'avoir des gens qui soient capables d'avoir le réflexe rapide. Et c'est là où c'est qu'il faut mettre en place toutes ces mesures-là d'avance, de sorte que tu as la flexibilité d'agir. Ça ne veut pas dire ça que tu vas agir dans les contrats avec la société et CGI. C'est de dire, voici, tu vas avoir des sous-traitants. Voici comment est-ce qu'on fait les contrats pour les sous-traitants. Voici comment ça doit être payé. C'est tout ça qu'il faut prévoir. Donc, il y a beaucoup d'administratifs qui doit se faire avant de commencer à juste dire on commence le projet, puis demain, on va gérer là, le système informatique de plusieurs compagnies ou de plusieurs ministères.
J'aime ce que M. Levasseur nous dit, puis en même temps, c'est très complexe, mais je pense que c'est réalisable. Là, on s'en va en campagne électorale,
oui.
Fait qu'on va avoir les autres partis politiques qui vont faire des propositions aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces partis politiques-là, de cette idée-là qui vient d'apparaître?
Oui, j'ai parlé justement à Michel Setoakui, qui est la porte-parole de l'opposition en numérique du côté du Parti libéral. Puis, c'est ça qu'elle me dit. C'est une bonne chose, mais on a encore très peu de concret.
C'est certainement une bonne idée, et je vois d'un bon œil que le gouvernement enfin prenne les enjeux de souveraineté numérique et de surdépendance aux firmes externes, surtout des firmes américaines dans le contexte géopolitique actuel, qui prennent ces enjeux-là au sérieux, ben bonne idée qu'ils le fassent à la fin de leur mandat. Le gouvernement de la CAQ est en fin de régime. Ils sont même pas capables d'annoncer. C'est pas une vraie annonce. Qu'est-ce qui a été signé? Ben rien, à ce que je sache. Donc, s'ils étaient contents, s'ils étaient fiers, ils seraient sur toutes les tribunes ce matin en train de nous annoncer cette bonne nouvelle.
En effet, c'est plus une idée de campagne électorale.
Ben, c'est ça. Puis on a l'impression que c'est ça, la dernière année de la CAQ aussi. On lance plein de choses qu'on aurait dû faire plus tôt, puis qu'on n'a pas fait plus tôt, puis on essaye de prendre du retard. Puis j'aimerais t'amener sur un dernier point avant de terminer.
Bien sûr.
De vouloir créer une société informatique, une société d'État au Québec, on peut-tu dire que c'est le constat d'échec du ministère de la cybersécurité que la CAQ a créé lui-même?
Ah, tu as tellement raison. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est très bon.
La CAQ a créé un ministère pour gérer ces dossiers-là. Ouais. Éric Kerr l'a demandé. On a dit, OK, on va créer... On sait qu'on a on sait qu'on a plusieurs projets d'envergure qui vont coûter des gros montants. On crée un ministère pour ça. Puis là, on se rend compte que finalement, le ministère n'a pas du tout joué son rôle. Fait qu'on se dit, mais va peut-être falloir créer... une société d'État, finalement, visiblement. Puis le ministère, ça marche pas.
Puis là, imagine, c'est la société d'État numérique qui va gérer la société d'État automobile pour, pour la troisième version de sa clique.
Hey, ça, ça commence à en faire beaucoup. Hein?
OK, on vient de parler vraiment trop en ridicule. Donc, finalement, c'est une mauvaise idée, Mathias.
Ben, c'est ça. Ben, en gros, quand on centralise... c'est toujours dans la manière que ça va être fait.
Exactement.
Si c'est bien exécuté, puis que tu réussis à faire tout bien marcher, bien c'est fantastique. Mais si c'est mal exécuté, c'est que tout marche mal.
J'aime tellement où tu m'as amené. La société d'État numérique qui gère la société d'État automobile.
Qui se fait gérer par le ministère des Transports aussi.
Où il y a le ministère des Transports là-dedans. Il y a le ministère de la cybersécurité et de la transformation numérique. Ça, finalement... c'est parfait, Mathias. Au prochain échec, il n'y aura encore personne de responsable.
Ben non, il n'y aura personne de responsable. Puis là, si on échoue encore, une fois qu'on va avoir des ministères, d'autres sociétés d'État, ben on va dire, ben maintenant, va faire des comités indépendants qui vont vérifier que ça se passe bien dans nos sociétés d'État. Fait qu'on fait juste rajouter des couches au puzzle.
Exactement. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Mathias, merci. Excellent dossier où on a vu justement les deux côtés de la médaille et on a pu se positionner. Après la courte pause à Boulevard 101 dans un instant, Lambert Drainville vient nous parler pour sa chronique hebdomadaire du mercredi. On va revenir sur l'entrevue de François Legault, sa dernière à Radio-Canada.
Pas. Moi aussi, check les offres cette semaine sur mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ à la clinique de sécheresse oculaire. Et un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à 250 $ chez 1-800-GOT-JUNK.
Oh oui, c'est ça que je disais. Mercado.
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Parfait, parce que votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1% de rabais sur tous nos modèles en location. Oui, 1% de moins sur votre prochain Volkswagen. Offrez-vous un nouveau look, plus de technologie et encore plus de plaisir à conduire tout en payant moins chaque mois. C'est le moment idéal pour changer. Passez nous voir dès aujourd'hui et découvrez...
Attends, te raconte l'actualité.
Boulevard 102.1.
On en jase, ton émission d'actualité à Boulevard 102.1 sur l'heure du midi, de midi à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel qui suit de 14 à 18h. Véro Bergeron est de retour de son voyage en Italie. Il sera avec Denis et Audrey le matin. C'est Marceau le matin avec Yannick Marceau, Max Larouche et moi-même, Jeff Fortin. Et le point de Max de 10h à midi avec Catherine Bachand maintenant qui s'est joint à Max Larouche, segment Open Mic, évidemment, 11h. Segment du Pit Stop à 7h55 le matin. Segment du Caucus avec Anthony Niacarini à midi du lundi au jeudi. Et n'oubliez pas également, on a Marceau le soir de 18h à 19h. Pascal CV, en cette belle après-midi, ensoleillé à 4 degrés à 13h11 minutes. qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Bien, ça donne le goût de rouler avec la bonne musique, que ça avance, qu'on ne soit pas dans le trafic. Ce ne sera pas trop le scénario pour cet été. Et on nous le rappelle aujourd'hui parce qu'on a d'autres entraves importantes de pavage, entre autres, partout à prévoir sur la grande région de Québec. C'est un autre gros été de travaux. Un peu tout le monde nous le rapporte, le Journal de Québec et tout ça. Donc, plusieurs chantiers majeurs du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui vont venir s'ajouter à ceux qui avaient déjà été annoncés pour le tramway, donc au plus municipal. Là, pour la rive nord, pour la rive sud du fleuve, les secteurs des ponts de Québec, du pont Pierre-Laporte, tout ça, ça sera fortement impacté par une panoplie de chantiers. On pense aux restaurateurs dans le coin qui en ont déjà arraché là, au niveau de l'automne. On est encore là-dedans. On invite tout le monde à prévoir des déplacements en consultant le Québec 511. On affirme aussi au niveau du MTQ qu'il va avoir réfection du pont de la route 175 qui enjambe l'autoroute 20 à Charny. Donc, fermeture d'une voie sur deux dans chaque direction. Puis ensuite, les travaux d'interconnexion entre la tête des ponts et le boulevard Laurier à Québec, bien, ça va être deux points chauds très importants. Ralentissement, ça risque d'être un été très très complexe, puis il y a d'autres détails qui sont à suivre, on aura plus d'informations. Une nouvelle aussi un peu plate, c'est que dès le 4 mai, le Soleil nous apprend que 4 cliniques de proximité qui vont fermer leurs portes sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, qui est somme toute à côté de nous et qui nous donne un angle aussi sur ce qui peut nous arriver. Donc, des patients qui seront dorénavant orphelins, si on veut, vont devoir se rendre à la clinique régionale du Centre médical de la Nouvelle-Beauce. Ça, c'est situé à Sainte-Marie. Quand même un bon bout de chemin à faire pour être soigné. C'est le GMF Nouvelle-Beauce qui en a fait l'annonce par voie de communiqué dans les dernières minutes. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec, Ariane Mignolet. On reproche qu'il ait donné des informations à Bernard Drinville, à Christine Fréchette au niveau du programme de l'expérience québécoise PEC et une possible clause de droits acquis pour certains individus. Je vous explique, il y a un article qui s'appelle l'article 17 du Code, dans lequel on dit qu'il n'y a pas de député qui a le droit d'utiliser ou de communiquer des renseignements qu'il obtient dans l'exercice de sa charge pour favoriser peut-être des intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Là, ça se fait dans un regroupement politique habituellement, mais là, on parle d'une course à la chefferie et c'est là le problème.
Au sport, hier soir, au Centre Bell, victoire dramatique du Canadien avec ce but alors qu'il restait 14 secondes pour créer l'égalité.
Lane Hudson qui reprend. Hudson s'avance. Hudson.
Le Canadien s'en sort vivant. Il l'emporte 4-3 sur les Panthers de la Floride en tir de barrage, ce qui fait en sorte que le Canadien de Montréal a 102 points. Pascal, écoute ça. À égalité avec les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay. Donc, triple égalité au sommet de la division Atlantique. Les Sabres affrontent ce soir les pauvres Rangers de New York, dernier dans l'Est, alors que le Canadien va se mesurer au Lightning de Tampa Bay jeudi au Centre Bell. Ça pourrait être un coup double. Le 50e de Cole Caulfield et la première position de la division pour le Canadien. Et parlant de Montréal, on va aller le rejoindre justement en direct de Montréal, notre chroniqueur hebdomadaire. À chaque mercredi, il est avec nous dans la deuxième heure du show, Lambert Drinville, vulgarisateur d'actualité. Lambert, comment vas-tu?
Salut Jeff, salut Pascal et salut Lane Hudson.
J'ai dit, je vais garder l'extrait pour mon chum Lambert, c'est sûr qu'il va réagir là-dessus puis qu'il va être heureux.
Ah, ton chum Lambert était bien rivé avec sa copine devant le match hier et hey, sérieux là. Ils nous font vivre des émotions cette année.
C'est capoté. Ah non, vraiment une belle saison pour le Canadien de Montréal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lambert, toi, es-tu quelqu'un qui a une suite logique dans les idées lorsque tu nous parles? Je pense que oui, là. Tu fais des chroniques avec nous depuis septembre.
Oui,
t'as une suite logique. Écoute, je te fais entendre Marilyn Gladue le 9 février dernier à la Chambre des communes alors qu'elle s'est levée enragée pour parler du premier ministre Mark Carney.
The Honourable Member for Sarnia Lambton Bequagina.
Madam Speaker, Canada has lost over 5,000 automotive jobs. 32 paper mills have shut down, and in my riding, 3 facilities are shutting down. 51,000 manufacturing jobs have been lost in the year since the Prime Minister took charge. He said he was going to build, baby, build, but the only thing he's built is the highest unemployment rate for youth we've seen in a generation. So will the Prime Minister do what he promised, build at a scale we haven't seen in generations, and work with Conservatives to restore Canada's sovereignty sovereignty in the face of American threats.
Lambert, si t'avais conseillé un politicien de se lever en chambre puis de planter le premier ministre sur le fait qu'on perd des emplois partout et dont trois manufactures qui ont fermé dans ta circonscription de Sarnia, est-ce que deux mois plus tard, tu lui aurais dit « Hein, c'est une bonne idée, mets ton gilet rouge puis va rejoindre Marc! »
Ben, va falloir lui demander à elle. C'est sûr qu'il faudrait lui demander à elle et c'est sûr que... Disons que ça donne l'impression d'avoir des convictions assez flexibles, je suis d'accord avec toi. Surtout que, tu sais, ça fait 10 ans qu'elle est là, plus que 10 ans élue en 2015. C'est pas juste une conservatrice qui vient d'être élue.
Non, non, non.
Conservatrice qui est là depuis longtemps et qui a été dans un. Qui est dans un comté qui est très, très conservateur. Elle a gagné avec au-dessus de 53 % lors de la dernière élection. Elle s'était même présentée dans une course pour devenir la chef du parti. Fait que c'est sûr que ça en dit long sur les convictions de Mme Gladue, mais ça en dit aussi très long, Jeff, sur l'état du caucus conservateur.
Ah, tellement.
Parce que là, après un départ, il y a eu Chris d'Entremont, après ça, il y a eu Michael Ma, qui d'ailleurs, on m'informe, n'a pas encore payé son billet là, pour le party de Noël conservateur. Le parti attend encore son remboursement.
Mais il y a eu des billets d'avion payés pour la Chine par Mark Carney. Hein?
Oui, exact, en échange. Il y a Matt Gennaro aussi qui a quitté, et là, Mme Gladue aujourd'hui, puis on entend quand même, il y a beaucoup, beaucoup de gens, là, même moi encore ce matin, là, certains employés sur la colline à Ottawa qui me confirmaient qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait d'autres, des transfuges conservateurs vers les libéraux. Ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on doit avoir un débat sur ce genre de transfuge-là. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement agir d'une façon ou d'une autre, mais à tout le moins se poser la question qu'est-ce qu'on fait, là, surtout dans un cas comme ça où elle avait été... où c'est une représentante conservatrice assumée depuis longtemps et élue clairement par ses concitoyens pour représenter le Parti conservateur. Puis, bien honnêtement, il va falloir aussi se demander si ça se poursuit, cette suite de transfuges. Quel est l'avenir là, pour Pierre Poilievre qui... bien qu'il ait reçu une bonne tape dans le dos lors du congrès conservateur juste après les fêtes. Il y avait eu au-dessus de mémoire, c'était 87 %.
Oui, exactement. Mais là, ça commence à sentir la soupe chaude là, avec le PLC qui va devenir majoritaire.
Ben, c'est que ça ne va pas dans le bon sens. Là. Si tu voyais une certaine croissance ou des signes de lumière, on se dirait, bon, ben... avec Trump qui va éventuellement se calmer puis éventuellement il quittera, peut-être qu'il y a une voie où est-ce que lui peut vraiment se positionner comme étant l'aspirant premier ministre en attente, mais là il est à 30 % d'écart entre lui et Carney au niveau de qui les Canadiens voient comme étant le meilleur candidat pour être premier ministre, et ses députés quittent son caucus, ses plus ardents députés quittent son caucus. Sa directrice des communications d'ailleurs à M. Poilievre, après ça de la bouche de Dimitri Soudas au Mordu politique qui a également quitté, c'est pas facile. Et de l'autre côté, ben, pour les libéraux évidemment là, c'est le parfait bonheur et l'enjeu de l'élection partielle en Terrebonne dans quelques jours devient soudainement moins important.
C'est clair. On est en attente d'un point de presse de la Maison-Blanche. On voit ça présentement en direct sur LCN. Donc, on va rester à l'affût de ce point de presse de Donald Trump. Parlant d'un qui est parti, Lambert, c'est François Legault. C'est sa dernière semaine. Et là, il a fait sa petite tournée médiatique d'adieu hier au bilan à LCN et également à Radio-Canada. T'as écouté l'entrevue à Radio-Canada et t'as retenu justement trois extraits pour nous.
Oui, c'est ça. Je vous ai sorti trois extraits que je souhaitais commenter. On sentait, tu sais, sur le total, là, on sentait qu'il était soulagé, qu'il était dans un bel endroit. Je pense qu'il en est venu à l'évidence que la suite se ferait sans lui. Il a pris la bonne décision. Il quitte selon ses propres termes. Il y a eu un show de chauds hommages à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'était très beau de voir ça et là, c'est temps pour lui de commencer à faire son bilan. On ne peut pas faire le bilan complet présentement. Il y a des choses dont on n'a pas les réponses sur ce qu'il a fait qui vont prendre quelques années et du recul. Mais déjà, c'était intéressant de revenir sur certains éléments, notamment la première extrait que je t'ai fait sortir sur ses gains qu'il a fait vis-à-vis le fédéral là, au courant de ses deux mandats.
On l'écoute dans quelques
instants. Êtes-vous allé chercher des gains du fédéral?
Bien, on est allé chercher de l'argent, on est allé chercher une consultation pour la nomination des juges, mais honnêtement, bien, moi, j'ai été déçu que les Québécois fassent pas davantage une priorité du rapatriement des pouvoirs en immigration en votant au fédéral.
Lambert, c'est-tu vraiment à faute des Québécois qui votent rouge au fédéral ou c'est la CAQ en tant que troisième voie qui n'a pas réussi son mandat?
Bien, c'est ça. J'ai trouvé ça spécial quand même parce qu'au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il est déçu des... Au fond, si tu résumes un peu le fond de sa pensée, c'est qu'il est déçu que les Québécois n'aient pas voté conservateur. Considérant leur promesse de donner plus de cordes.
Ouais. Mais en même temps, quand on a élu la CAQ, il y a ça 8 ans, c'est Justin Trudeau, c'est le Parti libéral, c'est le multiculturalisme. Puis on les a justement élus en se disant, bien, eux autres vont être capables de contrer ça.
Ben c'était la promesse qu'ils avaient faite. Et rappelle-toi, en 2018, il y avait une liste de 22 promesses, 22 demandes, en fait, au gouvernement fédéral. Et là, quand on lui demande de dresser son bilan, il parle de, bon, certains transferts d'argent. Ben honnêtement, rappelle-toi, les transferts en santé, c'était des peanuts. L'argent pour le réseau des garderies, ben on en a déjà un au Québec. Alors, c'est un peu de l'argent qui nous est déjà dû. Et sur les juges, là, le fait que le fédéral va nous consulter, ben il n'y a rien qui les oblige à tenir compte de notre avis là, dans les nominations. Fait qu'au final, c'est un bilan qui est plutôt nul et je trouve ça drôle là, pour un gars qui a fait 30 ans d'expérience politique de dire
ouais, c'est ça.
La faute des Québécois puis tout comme si le vote des Québécois allait se baser.
D'après moi, ça en fâche une couple de Québécois qui se disent « Hey, on avait eu confiance en toi ». Deuxième extrait, Lambert, qu'est-ce que tu veux nous présenter?
Les investissements à l'aide aux entreprises et Northvolt. On part ça.
Regardez, c'est, si j'ai un regret, c'est cette perception-là. Parce que les chiffres sont têtus. Quand on compare la croissance économique par habitant du Québec au cours des 7 dernières années, on a battu le reste du Canada. Bon, c'est pas arrivé souvent.
Et l'Ontario aussi.
Et l'Ontario et tout. Sur les investissements qu'on a faits pour aider les entreprises, on a aidé 25 000 entreprises. L'investissement dans Northvolt, c'est 1 % de nos interventions, mais c'est peut-être 99 % des articles de journaux qu'on a vus.
Ouais, ça, je comprends. Il est souvent revenu avec ça, mais t'sais, il avait présenté Northvolt comme étant la révolution.
Ouais, moi, je l'ai souvent défendu, cet investissement-là. T'sais, il y a plusieurs endroits dans le monde qui se battaient pour avoir cette entreprise-là chez eux. Et donc, je suis d'accord avec lui que c'est peut-être quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'emphase. Il a également raison de dire que pour soutenir notre modèle québécois, notre filet social, bien, il faut des entreprises qui génèrent de la richesse. Mais là où est-ce que le bas blesse, c'est tout le reste, là, parce qu'il n'y a pas juste Northvolt, il y a eu Recyclage Carbone Varenne, il y a eu Taïga, les Skidoo, il y a eu Lyon Électrique, et plus largement, il y a eu les innombrables bébelles qu'on a promis, particulièrement avant l'élection de 2018, que l'on pense aux espaces bleus, aux paniers bleus, les maisons des aînés qui coûtaient des centaines de milliers de dollars la porte.
Hey, même on t'a rendu à plus d'un million à la fin de la porte, là.
Bien, c'est ça. Puis là, présentement, on se retrouve dans une situation budgétaire qui est extrêmement difficile alors que quand la CAQ est arrivée au pouvoir, eh bien, il y avait des milliards en surplus. Et là, on va se retrouver dans une situation où les finances sont très serrées et toutes ces dépenses-là de bébelles, alors que nos infrastructures tombent en ruine, bien, force est d'admettre qu'avec du recul, on est à se questionner. Bien, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre à tout le moins une partie de cet argent-là pour entretenir ce qu'on a déjà? Moi, je pense que la question se pose. Les prochaines années vont être très difficiles pour le gouvernement qui va suivre. Et rajoute à ça la décote, évidemment, qui a fait très mal. Fait qu'au niveau des finances publiques, oui, on a rattrapé, au niveau de la création de richesses, oui, on a rattrapé le reste du Canada, mais disons que le portrait est plus que mitigé au niveau de la gestion des finances publiques plus largement.
Je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on n'est pas capable de faire. Oui, de rester vigilant, oui, de rester près des tendances puis de ce qui peut nous arriver, mais quand on n'est pas capable de gérer un type de projet, puis je vais donner l'exemple du technologique, de continuer de persévérer à vouloir le faire avant de prendre un pas de recul, d'apprendre de nos erreurs, puis de s'assurer qu'on ne se fait pas charger trop cher aussi pour certains projets. Ça, c'est un problème crucial au gouvernement, non?
Oui, puis partout d'ailleurs, partout... où des gros projets informatiques se font. On en a déjà parlé. C'est des, comme nos infrastructures physiques, nos hôpitaux, nos écoles sont en désuétude, nos infrastructures technologiques aussi datent d'une autre époque. Et souvent, les gens qui ont mis ça en place ne sont même plus au gouvernement. On n'a pas d'expertise. C'est vraiment quelque chose qui demeure et qui un énorme défi pour le gouvernement qui va suivre et les prochains. Là.
Lambert Drainville, on termine ta chronique hebdomadaire du mercredi. En une minute, on écoute la dernière clip et tu la commentes.
Qu'est-ce qui vous a pris? Soudainement, rebrasser le troisième lien, dire on va faire un sondage, on va le faire. C'est pas là le début, je veux dire de la fin, là, mais ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le lien de confiance avec les Québécois, c'est érodé, c'est brisé. Ouais. On n'est plus capable de vous suivre.
Ouais. Ben, écoutez, même à part la pandémie, ça m'est arrivé de changer d'idée. Okay. Ouais. Puis les Québécois appréciaient que je sois capable de me questionner puis de changer d'idée. Okay? Par contre, sur le troisième lien, la recette que François Legault, il n'est pas orgueilleux au point de dire « Moi, je vais défendre à tout prix les positions que j'ai prises. » François Legault, il est capable de se remettre en question puis de changer d'idée. Je pensais que c'était le cas. Mais j'ai été obligé de me rendre compte que non. Là, les gens ont vu ça comme étant « Ils auront une promesse importante. » J'ai plus confiance. Fait que, ouais, c'est vrai, il faudrait que j'espère. C'est ça, là. C'était dur. C'est vrai que c'était, c'était un moment dur.
Le fameux troisième lien, Lambert. Un pont, maudite merde. On avait juste à faire un pont.
Oui, il l'avait promis en campagne électorale. Il a dit que ça allait être une décision politique, puis il s'est empêtré après ça. C'est vrai que c'était une de ses forces en début de premier mandat d'être en mesure de reconnaître qu'il s'est trompé durant la pandémie. Il en a fait bon usage. Mais c'est bien la preuve qu'en politique, c'est une carte. De dire que tu t'es trompé, que tu peux jouer un certain nombre de fois, mais qu'au final, tu dois user avec parcimonie, surtout quand l'enjeu est grand et quand c'est un enjeu sur lequel les gens t'ont fait énormément confiance. Ça me fait penser à Paul Saint-Pierre Plamondon et son référendum. C'est pour ça que je pense que M. Plamondon va vivre et mourir avec lui, parce que le fait de changer d'idée lui coûterait beaucoup trop cher. La lecture du PM dans Jean Talon n'a pas été la bonne. Il pensait que les gens lui envoyaient le message « Hey, finalement, on veut un troisième lien », mais le message que les gens lui envoyaient, c'est « Hey, mon homme, tu as brisé ta promesse et on ne te fait plus confiance ». Et pour répondre à ça, puis là, encore une fois, changer d'idée, ça a été le début de la fin pour la CAQ. Je veux quand même dire merci à M. Legault, je l'ai fait sur mes plateformes.
Moi aussi, je l'ai fait en ondes, il n'y a pas de doute.
Oui. Près de 30 ans d'engagement public, il faut lui lever notre chapeau, puis on refera le bilan plus précisément des bons coups et des moins bons coups quand on aura un plus grand pas de recul sur toutes ces années.
Entièrement d'accord avec toi, Lambert Drainville, merci beaucoup. On se parle vendredi avec Farnell Morissette à compter de midi.
À vendredi, la gang. Bye-bye.
Salut, Lambert. Lambert Drainville, toujours très intéressant. Il est sur nos ondes à chaque mercredi en chronique hebdomadaire et les vendredis en mode discussion avec Farnell Morissette. Dans un instant, Luc Laliberté vient s'installer avec nous. Point de presse présentement à la Maison-Blanche. On va parler de ce qui se passe dans ce conflit en Iran et de ce cessez-le-feu pour deux semaines. On en jase, ton émission d'actualité du midi. Il est présentement 13h33. À la météo, je vous l'ai dit, c'est une très, 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 très belle semaine qui s'annonce. Il y aura de la pluie vendredi, mais sinon, 4 degrés aujourd'hui, généralement ensoleillé. 11 degrés demain, 8 degrés pluie pour vendredi, mais 7 degrés pour samedi et 10 degrés pour dimanche. Full soleil. Circulation, Pascal.
Oui, ça s'est résorbé dans les dernières secondes. La seule chose, c'est que ça s'est accumulé au niveau de la voiture dans cet axe-là à Félix Leclerc-Ouest, accès vers l'autoroute Henri IV Sud, voie de gauche qui a été bloquée. On avait une panne. Rapidement, là, ça a pris 13 minutes. Remorquage qui est déjà en cours, mais comme je vous disais, ça a ralenti le secteur.
Selon Katharina Leavitt, la porte-parole à la Maison-Blanche pour l'équipe de Donald Trump, c'est un triomphe, c'est une grande victoire. L'Iran n'aura plus jamais accès à l'arme nucléaire et, selon elle, l'Iran soumis à un nouveau plan plus raisonnable pour que le cessez-le-feu demeure au-delà du deux semaines. Pour en parler avec nous, notre spécialiste en politique américaine, il produit également les capsules, les excellentes capsules Liberté en clair sur les médias sociaux. Luc Laliberté, comment vas-tu?
Je vais particulièrement bien. Écoute, on craignait l'Armageddon hier. Rappelle-toi, avant 20h, tout le monde se disait que Donald Trump va de l'avant avec sa promesse, il va raser une civilisation. On se doutait que c'était un brin exagéré, c'est Donald Trump. N'empêche que la première réaction, avant qu'on y aille d'analyse un peu plus poussée, la première réaction, je pense, c'est qu'il y a eu un soupir de soulagement, entre autres sur les marchés, parce qu'on a vu le prix du baril de pétrole baissé de manière significative peu de temps après l'annonce.
Et là, Trump, Luc, au vu et au su de ceci, baril de pétrole qui diminue, bourse qui augmente, Américains qui n'étaient pas derrière lui dans ce conflit-là, il a pas le choix de trouver une entente, quitte à être perdant dans cette entente-là, puis faire à croire comme il fait à croire aujourd'hui que c'est un triomphe.
Bien, écoute, c'est certain qu'il y a cette récupération aujourd'hui, ce qu'on appelle le spin. Le secrétaire à la Défense ou le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a été le premier à nous crier que c'était un grand triomphe. Mme Leavitt, dans son point de presse à la Maison-Blanche, est en train de récupérer presque mot pour mot la formule. Au mieux pour Donald Trump, à très, très court terme, il peut dire « j'ai appliqué « the art of the deal ». C'est que j'ai une menace extrême et je prends ce qu'il ramasse après avoir poussé mon adversaire. À la limite, on pourrait dire ça comme ça. Moi, ce que je vois surtout comme possibilité, et ce n'est pas réglé, mais la possibilité pour les États-Unis, c'est de se tirer d'un mauvais pétrin. Pas parce que l'armée ne fait pas le travail, pas parce qu'on n'atteint pas les cibles sur le terrain, parce que les retombées de ce conflit-là dans la région, à l'international et aux États-Unis, pour Donald Trump, c'était un véritable bourbier. Et ce qu'on sentait dans les journées qui ont précédé le cessez-le-feu, c'est où est-ce que je prends la sortie? Je suis sur l'autoroute et mon réservoir est vide ou j'ai une charge si j'ai une voiture électrique. Je sors où? Et c'est là où on en était. Et je pense que Donald Trump a pris la première sortie qui s'est présentée à lui. Et quand on observe le plan proposé par l'Iran, il y a des choses là-dedans que l'entourage de Donald Trump avait déjà refusé. Et j'ai tellement de questions qui sont pour le moment sans réponse. Puis on le voit un peu partout aujourd'hui. C'est fragile, ne serait-ce que les alliés des Américains. Par exemple, si je suis un allié du Golfe dans la région, là, je me suis rendu compte qu'avec ce qu'Israël et les Américains faisaient, j'étais particulièrement fragile. J'étais une cible pour les missiles, pour les drones iraniens. Et là-dedans, ce sont mes infrastructures qui sont menacées. L'eau potable, par exemple, des cibles civiles. Donc, il y a des alliés dans la région, il y a tout ce qui s'est passé avec l'OTAN, avec les pays européens, il y a une bonne partie de l'économie mondiale aussi. Et en passant, pour quelqu'un qui dit « on a fait le ménage puis on a atteint tous nos objectifs », le détroit d'Ormuz est encore, même si on circule, sous contrôle iranien. Et le régime qu'on prétendait avoir changé, c'est ce qu'on a dit aux Iraniens déjà, « sortez dans la rue, on va venir vous aider », c'est ce qu'avait lancé comme message Donald Trump. On a maintenant un régime en place qui est plus radical et en négociant avec lui, vous venez de reconnaître sa légitimité. On ne négocie pas avec quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Donc, c'est de facto, c'est par définition. Donc, on est dans une drôle de situation. Le président, au mieux, peut sortir de ce conflit-là, mais je ne vois pas de victoire américaine. Bien sûr, il n'y a pas de victoire iranienne non plus, sauf si on considère le détroit d'Ormuz. Et ensuite, ce que Mme Leavitt, ce à quoi elle faisait allusion aussi dans son point de presse, l'uranium. Les Américains viennent de dire, c'est Pascal qui me le rapportait, les Américains viennent de dire ils n'auront pas l'arme nucléaire. Mais qui contrôle les dépôts d'uranium et d'uranium enrichi, à partir duquel on produit des armes nucléaires? Ce n'est pas réglé, ça, et ce n'est pas dans le plan non plus.
C'est particulier de voir tout ça. Tu dis qu'il a voulu prendre la sortie de Donald Trump, on le croit, sans perdre la face, mais il l'a quand même perdu. Je veux dire, si nous, on s'en rend compte, les Américains s'en rendent compte. Mon ami revient de la Floride, elle a une maison là-bas, elle disait « c'est la première fois que des Américains en Floride s'excusent à des Canadiens pour avoir élu Donald Trump ». C'est gros quand même, mais à l'international aussi, puis c'était le point de Jeff. Finalement, il a perdu la face, Donald Trump.
Écoute, c'est beaucoup de cris. Il s'est démené énormément, c'est brandir des armes et c'est toujours d'avoir cette menace extrême. Et carrément, ce qui est sur le papier, ce dont on va discuter demain, parce qu'on est censé se rencontrer demain, de mémoire, c'est à Islamabad. Donc, on est censé se rencontrer. Et ce qui est sur le papier, les Américains l'avaient déjà rejeté. Donc, quand Catherine Leavitt dit « ils sont plus raisonnables, les Iraniens », c'est « non, vous êtes plus raisonnables ». Donc, est-ce qu'on pouvait dire que c'est encore un Taco Tuesday, Trump always chickens out, ou Trump recule tout le temps? Moi, je pense, je maintiens ce que je mentionnais tout à l'heure, il a pris la première sortie possible. Il a dit, quand est-ce que je peux quitter l'autoroute? Tiens, on prend ce côté-là, c'est offert, c'est ouvert.
En plein ça. Maintenant, Luc, comment ça va réagir au niveau géopolitique mondial? T'sais, parce que là, j'ai l'impression que Donald Trump s'est tellement mis dans un coin puis recule énormément qu'il n'y a plus personne qui va le prendre au sérieux. T'sais, l'Union européenne, ils vont le laisser faire son petit bruit dans son coin. Ils ne le géreront pas. Même Mark Carney a commencé à l'abandonner. T'sais, j'ai l'impression qu'il va se retrouver très isolé, même si les États-Unis demeurent la puissance mondiale.
C'est-à-dire que dans la pratique, on ne peut pas les écarter complètement. Ce qu'on vient de gagner à l'international, c'est une marge de manœuvre. Quand Trump s'est essayé avec les tarifs, on l'a bien vu ensuite, c'est la Cour suprême, c'est de l'intérieur qui est venu le refus ou le rejet de ces fameux tarifs. Mais quand Donald Trump s'est braqué et qu'il s'est mis à imposer des tarifs à tout le monde, on a vu que sur ces questions-là aussi, il a reculé avant que la Cour suprême ne lui inflige un revers. Il y a toujours des tarifs. On a utilisé d'autres lois pour y parvenir, mais on ne fait pas, entre guillemets, autant de dommages qu'on en a fait. Et il y a bel et bien eu recul. Moi, je pense que ce qui arrive de pire présentement aux États-Unis et à Donald Trump, et ça n'empêche pas d'autres petits gains ici et là, tu parlais de perte de confiance. Moi, je parle d'isolement des Américains. Quand on parle de « America first », de favoriser d'abord les États-Unis, en Floride, probablement que c'est ce que les gens que l'ami de Pascal a rencontré lui ont dit, c'est l'Iran, c'est pas America first. On a bien compris qu'on n'avait même pas eu de prétexte officiel pour entrer là. Mais le America first sur la scène internationale est en train de devenir, c'est la métamorphose ou la transition vers America alone. Et ça, pour les États-Unis, je pense qu'ils ne constatent pas encore pleinement les électeurs américains à quel point on a fait mal aux États-Unis sur la scène internationale. C'était vrai quand on a coupé ce qu'on appelle le soft power. On en avait parlé, je crois, ensemble. Mm-hmm. C'est le USAID, c'est l'aide internationale. Oui, ça servait la propagande américaine. Oui, ça présente un beau visage des États-Unis, mais il y avait une aide réelle par laquelle on établissait des contacts. On n'a pas coupé dans le programme. On a littéralement jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a une foule d'endroits sur la planète où on se tourne maintenant vers la Chine ou encore vers la Russie, je pense à l'Afrique, entre autres. Donc, on isole les États-Unis et si dans le hard power, le pouvoir militaire, on sème le doute, on s'est mis des alliés à dos ou qu'on fait le jeu de rivaux. Moi, je vois deux gagnants pour l'instant du conflit iranien, la Russie et la Chine. Donc, je répète, mon America first, il est en train de devenir sous Donald Trump un America alone. Et ça, les Américains vont devoir composer avec ça après le départ de Donald Trump, peu importe qui va prendre le pouvoir, que ce soit un autre républicain ou que des démocrates reviennent à la présidence. Il va falloir lutter pour reconstruire cette puissance américaine ou cette importance des États-Unis à l'échelle internationale.
C'est clair. Luc Laliberté, c'est toujours un plaisir de te parler. On le rappelle aux gens, il faut aller voir les capsules de Luc sur la liberté en clair sur les différents médias sociaux. Et nous, on se reparle cette semaine, peut-être dans Marceau le matin ou la semaine prochaine.
Toujours partant, toujours un plaisir et salutations à tous les auditeurs et auditrices.
Salut Luc, merci beaucoup. Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine. Dans un instant, Boulevard 101, Pascal CV va nous présenter des nouvelles façons de faire du vol à l'étalage, Pascal. Oh my God, j'ai hâte d'entendre ça. On termine ce beau tour de roue de l'actualité à l'émission On en jase, ton émission du midi de midi à 14h. Va suivre comme d'habitude le retour avec Denis Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. C'est le retour de Véro. Et à 18h, Marceau le soir. Pascal, t'es fait donner comme information qu'il y avait des nouvelles façons de faire du vol à l'étalage. Qu'est-ce qui se passe dans nos commerces?
Ben en fait, ça part de d'autres choses. C'est l'augmentation du vol à l'étalage qui nous est rapportée par tellement de commerçants, mais comme ça a toujours existé, on le comprend. Mais à ce point-là, c'est là qu'on le comprend pas. Puis on a de moins en moins de mesures pour le contrer. Se cache derrière ça quelque chose qui est apparu évident dans la conversation que j'ai eue avec Martin Boucher du groupe Boucher Sport Expert. Et celle-là, je m'en attendais pas. Pourquoi? Bien, d'abord, on l'entend sur la croissance significative des vols à l'étalage.
On a senti un accroissement significatif depuis, je vous dirais, peut-être 4-5 ans à peu près. Ça fait que la tendance, puis c'est peut-être un peu pire depuis 2 ans, là.
OK, fait que c'est un phénomène là, qui dure depuis longtemps, cette augmentation-là.
Ça a toujours existé, mais c'est vraiment plus apparent maintenant. Il parle régulièrement, Martin Boucher, avec d'autres commerçants. C'est une chose qu'on ne voyait pas avant. C'est totalement nouveau. Avant, c'était vraiment des compétiteurs, là, pas à un point de scoltailler, mais quand même, la pression était forte, puis c'était au plus fort la poche, puis c'est normal, on est en affaires. Mais là, c'est devenu tellement problématique, le vol à l'étalage, que maintenant, quand les policiers arrivent ou interceptent un voleur, ils voient le stock à l'intérieur, voient les étiquettes. Bon, t'as Sport Expert, t'as un autre magasin, puis un autre magasin. Fait que quand les policiers parlent avec bon, Martin Boucher, du Sport Expert, il dit « Ouais, il y avait aussi du stock de tel endroit. » Puis Martin Boucher, il me dit « Bon, on s'appelle. » Puis on se parle. Puis des fois, on se fait des descriptifs des individus. Puis on veut pas ficher du monde qui ont rien à voir, mais on essaie d'avoir un genre de regroupement parce que c'est devenu difficile dans nos chiffres et c'est en augmentation. Puis la police, ben elle a d'autres choses à gérer. C'est un phénomène qui est généralisé. C'est vraiment important d'en parler. C'est pas juste l'inflation. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, malheureusement, mais il y a une nouvelle variable qui semble expliquer en une partie là, de cette montée-là.
C'est le phénomène des gangs de rue, honnêtement, qui est aussi présent. Et vous parlez d'inflation, ben, malheureusement, il y a peut-être quelque chose là aussi de ce côté-là.
Gangs de rue, façon de faire de l'argent, façon peut-être d'aller chercher, je pense, à Sport Expert du linge cool pour essayer de recruter bon, des jeunes dans nos écoles secondaires?
On peut prétendre, mais ça a tellement attiré mon attention que j'ai aussi parlé à Roger Ferland, qui est un ex-enquêteur au SPVQ. Vous le connaissez bien. Puis j'ai posé la question, pourquoi? On explique ça comment, cette nouveauté-là?
Un nouveau phénomène de gang, dans le fait, qui est le... Si tu fais des actions, bien, ça rapporte à notre groupe. Fait que c'est une façon simple au départ de s'enrichir. Puis si jamais on te pogne, tu n'as pas des grosses conséquences pour le vol à l'étalage. Puis ça, c'est enseigné en ce moment. On a vu en ce moment dans la région de Montréal. Mais cette culture-là est en train de s'enseigner en ce moment à beaucoup de niveaux.
J'aime ça. Pas beaucoup de conséquences. Fait que je suis un gang criminalisé. Puis je peux commencer à m'enrichir tranquillement. N'ayant pas peur de ce qui va m'arriver avec la police.
C'est comme les premières armes. On est en train de se désensibiliser peut-être au crime. On a vu ça dans d'autres cas, des cas d'agression sexuelle, etc. Mm-hmm. Mais là, on le voit aussi au niveau du vol, du de la crainte qu'on essaie d'aller amenuiser finalement. Mais j'ai aussi demandé, Roger Forland, pourquoi on est rendu là?
C'est une façon uniquement au départ de s'enrichir. Ils veulent tout faire de l'argent, ils veulent tout faire du cash sans trop travailler. Fait que c'est une façon, ils se l'enseignent. Je suis obligé de te dire que d'avoir travaillé à sécurité du vol à l'étalage, il y a un petit thrill quand tu le fais. Il y a une adrénaline qui se passe, tu te fais pas poigner, puis après ça, ben tu t'ambitionnes puis tu trouves des façons simples de le faire.
C'est vrai, moi j'ai déjà volé des palettes de chocolat à ma blonde quand elle travaillait au dépanneur Sonorco puis qu'on le tapait ensemble. C'est vrai, il y avait un petit thrill, tu sortais un peu bien chaud de la taverne Jugerot, tu partais avec des palettes de chocolat.
Mais t'étais avec ou pas, là?
Non, je suis pas avec. J'avais 16 ans, Colin.
On revient au fait que c'est un point qui revenait aussi chez M. Boucher du groupe Boucher Sport Expert. C'est peu puni, on a de la difficulté à avoir de l'aide policière, puis il jetait pas du tout la pierre aux policiers. Il sait c'est quoi le contexte. On parle là de gangs de rue, de criminels. C'est pas mal ça à quoi s'affairent les policiers au quotidien. Mais il nous expliquait dans quelle situation les policiers sont pas intervenus. Alors, il s'attend pas à ce que ça vienne qu'à intervenir pour des vols dans son magasin.
J'ai eu des situations délicates avec de la violence familiale, des choses comme ça, ou avec notre programme d'aide employé. On est intervenu pour aider les gens. Ça arrive à plusieurs fois dans l'année, puis on contacte les policiers pour qu'ils nous aident là-dedans avec les employés. Puis imaginez-vous, pour ces situations-là, on se fait dire qu'ils ont peu de temps pour intervenir ou ça va prendre quelque chose de plus important, plus majeur, plus de preuves, plus de ci. Puis je leur tire pas la pierre parce que probablement qu'ils sont débordés. Je sais pas s'il y a des manques d'effectifs. À où je veux aller avec ça, c'est si dans ces situations-là, on est là. Imaginez-vous, quand on les appelle pour nous dire que pour leur dire qu'un gars, ça fait trois fois qu'il nous vole une tuque. On n'a pas de retour d'appel, là.
Ah, il y a tellement de choses à gérer du côté du service de police que clairement, c'est pas la priorité.
Tu sais, voler des tucs, tu peux te dire, ouais, c'est un peu insignifiant en ce moment avec ce qu'on a entre les mains. L'affaire, c'est vol de tucs, vol de ci, vol de ci. Ça commence à être assez important pour que les chiffres d'affaires bougent. Tellement que Martin Boucher s'est dit, hey, on peut-tu s'aider d'une façon, nous, chez Sport Expert? Bien, c'était moins cher de s'équiper de matériel technologique à haute qualité, de réfléchir à des situations que d'encaisser et de continuer d'encaisser les pertes.
On a un système de caméra qui est ultra sophistiqué, qui nous permet maintenant d'intervenir en direct, en temps réel. puis en dedans d'à peu près 60 à 90 secondes, mes gérants de plancher peuvent avoir une notification sur leur cellulaire en magasin lorsqu'il y a des comportements suspects.
OK, puis ça, c'est des comportements suspects. Quel genre? C'est que là, il y a des gens qui traînent, fait que la caméra sophistiquée va dire « fait trop longtemps qu'il est à tel endroit ». C'est comment ça se passe?
Tu comprendras que si j'ai pas la réponse, c'est que j'ai posé la question, puis on regarde quand même certaines informations.
On se garde une petite réserve, d'accord.
Parce que c'est la manière dont on réussit à mettre la main sur ces fautifs-là. Je peux pas les traiter de criminels. Hein. C'est très complexe.
Oui,
ça.
Oui.
Tu peux pas commencer à courir ou pointer du doigt une personne même qui a volé devant tes yeux. Donc, pour Martin Boucher, c'est ça la solution. Et ça amène énormément de positifs. Ils voient une baisse des vols de cette manière-là, mais ça a été quand même un investissement. Puis je vais terminer avec Roger Ferland, toujours ex-enquêteur au SPVQ, parce qu'il parlait de cette nouveauté de gens qui décident de faire des affaires sur Marketplace, mais avec des affaires qui ne leur appartiennent pas, en fait, avec des choses qu'ils ont empruntées à long terme.
Le marché en ce moment du Marketplace, toutes les façons de revendre du stock pas cher, bien, c'est principalement nourri par les vols à l'étalage. Les gens volent la marchandise, mais tu n'as pas besoin de 5 manteaux à un moment donné dans la vie ou tu n'as pas besoin de 5 paires de bottes. Mais si tu as trouvé un truc pour en sortir, ben après ça, tu les revends pas cher comme si tu avais pogné un deal de fin de fabricant ou peu importe.
Ah, c'est clair que sur Marketplace, il y a des effectifs volés. Écoute, j'ai déjà vendu mon vélo, puis le gars l'a revendu plus cher 5 minutes après. Ça m'a fait chier.
C'est un homme d'affaires.
Ouais, c'est un homme d'affaires de Marketplace. Ligue nationale ce soir, surveillez le match entre les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York, parce que les Sabres sont à égalité au premier rang avec le Canadien de Montréal dans la section Atlantique. Pascal, c'était vraiment intéressant comme dossier sur le vol à l'étalage. Sinon, dans l'actualité, on suit quoi? Prorogation de l'Assemblée nationale jusqu'au 5 mai?
Oui, ça c'est un point également, une transfuge des conservateurs au fédéral qui est rendu dans l'équipe à Pierre Poilievre et qui pourrait lui faire, dans l'équipe de, excusez-moi, Mark Carney, qui pourrait lui faire gagner la majorité, puis surtout point de presse du côté des États-Unis, Donald Trump et son équipe qui essaient de faire en sorte qu'on croit à ce qu'ils ont gagné leur point auprès de l'Iran, mais malheureusement, la situation est encore extrêmement critique.
C'est un succès sur toute la ligne aux États-Unis, selon Donald Trump. Oh, pas certain. D'ailleurs, sûrement que le retour de Gravel de 14h à 18h va en parler, va faire un tour de l'actualité complète avec vous, parce que c'est le retour de Miss Nouvelle dans l'émission de Gravel, c'est-à-dire Véronique Bergeron qui est de retour d'Italie. Nous, on se reparle demain à midi. Bye-bye, guys. Merci d'être auditeur sur les ondes de Boulevard 101. Salut, Pascal.
Salut.